C'est vrai que tout le monde pète dans le métro.
Tout le monde pète dans le métro.
On l'utilisera comme extrait pour nos stories Instagram. Voilà.
C'est parfait. On est à 1h30. Donc vous avez le temps encore.
Merci Johan.
Le timer.
La vignette, le meilleur podcast BD de l'univers.
Enfin, selon nous.
Waouh ! Bienvenue sur La Vignette, qui, je le rappelle, est le meilleur podcast de bande dessinée de l'univers, selon nous, mais selon d'autres personnes maintenant. C'est ça qui est agréable.
Ça commence, ouais.
Aujourd'hui, c'est un épisode exceptionnel. Déjà parce qu'on est sur écoute, puisque Glénat nous a envoyé Camille, qui est venue nous espionner et qui bosse, du coup, pour Glénat. Et qui nous a contacté il y a quelques semaines déjà pour nous dire, écoutez, et c'est ça la grande nouveauté, j'ai un auteur qui serait content de venir dans La Vignette.
Ouais, grave.
Mais j'ai dit, super, on était prêt à dire oui parce qu'on était un peu en galère d'inviter, mais j'ai dit, ouais, éventuellement, si on pouvait lire la BD, ce serait cool. On a eu beaucoup de mal à se rencontrer avec cette bande dessinée et on a fini par la recevoir. Elle s'appelle Talion et on reçoit aujourd'hui Sylvain Ferret et c'est une très belle bande dessinée et on est très content de te recevoir, Sylvain. Bravo.
Je m'auto-applaudis pas quand même.
Tu aurais pu parce qu'on aurait été quatre et ça aurait été exceptionnel en termes de densité.
Et il n'y a pas d'image.
Standing ovation.
Non, mais hyper content de te recevoir.
Et merci
de me
recevoir.
De nous solliciter.
Ça
va ?
J'espère. Ouais, ça va. Tranquille. Bon.
Est-ce que tu connais le concept de l'émission ?
Parler de BD ? Parler de la vie de l'auteur à travers les BD qu'il a aimé, tout ça, etc.
Ah, c'est bien, je peux répéter comme ça.
Ouais, mais tu le fais bien, tu le fais plus longtemps.
Ok, je respecte le
je vais bien. En fait, j'aurais pas dû répondre.
J'espérais que tu mimes la surprise. Non, je sais pas ce que je fous là, c'est Camille qui m'a obligé.
On vient de dire qu'il avait écouté, donc forcément, il connaît le concept.
Ouais,
je suis un con,
je suis fatigué.
Donc, le concept de l'émission, c'est comme tu l'as dit, de parler de bande dessinée et du parcours de l'auteur et de sa passion de la bande dessinée ou du dessin ou de l'illustration à travers trois bandes dessinées ou trois moments de sa vie qui ont compté. Mais c'est surtout un prétexte pour parler de plein de choses et découvrir des univers, des personnes.
Puis passer le temps.
Ouais, bien sûr.
On n'a pas grand-chose
d'autre. Se divertir, quoi. Bon, voilà, quoi.
Alors, quelle est la première BD ?
Direct. Let's go.
Non, en vrai, la première question en général, c'est quel était ton premier rapport au dessin ? Est-ce que tu te rappelles, à peu près ? Quand est-ce que tu as kiffé dessiner ?
Ouais. C'est un peu difficile avec moi parce que j'ai pas vraiment été baigné là-dedans. Genre, mes parents lisaient absolument pas de bande dessinée. Ils en lisent toujours pas d'ailleurs.
Les tiennes un peu.
Je pense qu'ils ont peut-être que ma mère a lu le premier tome des Métamorphoses qui était ma première série chez Delcourt, mais je pense pas qu'elle a lu la suite. Elle a dû feuilleter. Et mon père, je pense que il m'a demandé il y a pas longtemps comment s'appelait ma BD alors que ça faisait deux semaines qu'elle était sortie, donc je pense que c'est pas ouf.
Il a vraiment pas voulu aller sur Google quoi.
Non mais vraiment ouais, c'est abusé. Genre je lui ai dit mais tu sais en fait. On a le même nom de famille, en fait. Donc, t'as juste à taper mon nom et tu trouves la BD, quoi. Voilà, aucun effort.
Peut-être qu'il déteste la BD ?
Je sais pas s'il la déteste. Ou alors il déteste la culture en général, peut-être, je sais pas.
Non, mais en vrai, ouais, donc pas du tout branché.
Non, pas vraiment. Pas vraiment branché BD. Ma mère, elle avait des parents qui étaient profs d'art, donc il y avait une espèce de lien à l'art un peu mystérieux, quoi, dans la famille, même si ma mère dessinait plus depuis une éternité, depuis le lycée, quoi. Donc je me suis mis à dessiner naturellement quand j'étais gamin, mais j'ai un peu du mal à expliquer pourquoi. Et pourquoi est-ce que je voulais faire de la BD ? Franchement, j'en sais rien. Je crois que je suis un peu obsessionnel. Et que du coup, gamin, j'ai dû me dire un jour je ferai de la BD. Et après, ça a duré 27 ans. Et voilà, tu vois.
Et pourquoi tu t'es dit ça ?
Je sais pas trop. Je crois que mes premiers souvenirs avec la bande dessinée, c'est de lire des Lucky Luke chez des amis de ma mère qui avaient vraiment une grosse bibliothèque de bande dessinée franco-belge. Mais je lisais un peu en dilettante, quoi, tu vois. Genre, je les ouvrais, je suis même pas sûr de les lire, de les avoir lus du début jusqu'à la fin. Donc j'ai un peu des petits souvenirs comme ça avec Lucky Luke, des petits souvenirs avec Astérix ou avec Tintin, mais c'est à peu près tout en franco-belge.
Bonne base quand même.
Il n'y a pas de Léonard, parce que j'ai la ref du, du running gag.
On a deux running gags.
Je vais avoir un Achille Talon, des Marsupilami, des trucs comme ça dont je me souviens un peu. C'est un peu obscur, tu sais, mais c'est un peu genre les BD, c'est con à dire, mais c'est un peu les BD qu'il y avait dans les chiottes chez mon père. Quoi,
bien sûr. Et important les BD de chiottes, en vrai.
Et figure-toi que quand j'ai acheté un appartement il y a quelques temps, puisque j'ai
41
ans. et la première chose, pas la première chose que j'ai faite.
Je vends le mien, tu veux en acheter un.
Non, parce que Toulouse.
C'est de la merde.
Ouais, je partais dans un terrain bizarre. Moi, j'adore Toulouse. Ouais, tu m'enverras une, deux, trois photos.
Ok, avec plaisir.
Et une des premières choses que j'ai faites, c'est mettre des BD dans les chiottes.
Ouais,
carrément, mais j'en ai moi aussi. Je vais pas dire lesquelles, parce que ce serait un peu irrespectueux, mais j'en ai, ouais.
Moi, j'ai Last Man. Voilà, je le dis.
Ah ouais?
Ouais.
Mais moi, je trouve ça pas irrespectueux. Hein. En vrai, en général, dans les toilettes, mais il y avait juste
la proximité au PQ. C'est une règle.
Non, c'est souvent que c'était des bandes dessinées qui se lisaient assez vite. Donc en général, nous, aux toilettes, c'était une page, tu vois. Les Lagaffe, les Jonard,
les blondes.
Non, pas du tout. Ah non, respecte-moi, putain, merde.
Mais genre Watchmen.
Ouais, mais par contre, c'est une tradition familiale, tu vois. En général, tu lis des bandes dessinées aux toilettes.
Moi, j'ai acheté tous les Luciens pour les mettre dans mes chiottes. Voilà, je le dis.
Ok.
Ok.
Bah, exprès. Excuse-moi, tu peux reprendre du coup.
D'occasion.
Non, ouais, j'ai acheté les originaux. Ça vaut rien. D'ailleurs, pour les fans de BD, les originaux de Lucien, enfin, les premières éditions, ne valent rien sur le marché.
Ok.
T'as des grandes chiottes quand même, parce que ça fait beaucoup d'épisodes, non?
Ouais, de maxi chiottes, ouais.
Donc. Les bandes dessinées aux toilettes.
Mais du coup, tu lis Lucky, Lucky Martin.
Toutes ces BD sont aux chiottes.
Mais tu kiffes quand même ou...
J'imagine une salle entourée de BD avec juste
un toilette au milieu.
Un toilette au milieu.
Légendaire.
C'est une petite estrade. Ouais, ouais, bien sûr.
Ouais, donc bref, je lisais. Ouais, c'est dur. Hein.
Non, mais Lucky, tu kiffes ou parce que tu dis que tu les lis
ouais,
pas vraiment.
Ouais,
mais...
je kiffe. En tout cas, je répliquais, je redessinais, je recopiais vachement. Donc je pense que j'aimais bien, mais ça m'est genre aujourd'hui c'est pas resté comme une espèce d'amour de jeunesse. Enfin voilà, c'est pas une Madeleine de Proust pour moi la bande dessinée franco-belge.
C'est pas ton divertissement préf à ce moment-là.
Non, mais même aujourd'hui quoi, je veux dire genre je les relis pas quand je suis chez des gens qui les ont, etc. Je les ouvre, je les regarde un petit peu par curiosité, mais c'est plus par presque analyse de dessin purement graphique, etc. Ouais. Tu vois, un truc un peu pragmatique pour connaître un petit peu l'histoire de la bande dessinée, savoir comment est-ce que ça s'est construit et d'où ça vient. Mais j'ai pas vraiment de nostalgie de cette période. Ma nostalgie, elle a vraiment commencé plus tard avec le manga, je pense. C'était mes premières attaches émotionnelles à la bande dessinée. Mais après, je sais pas, j'ai continué à charbonner, à dessiner à fond. Et je sais pas pourquoi je dessinais des BD. Mais même, je crois qu'en fait, enfant, je dessinais pas énormément. Ou genre, j'étais pas très concentré, quoi. Je pense que je dessinais vite fait sur des coins de table... Je pouvais dessiner longtemps, mais quand j'entends des même qui sont passés dans le podcast, des auteurs qui dessinaient de ouf, qui run, qui disaient que genre il faisait ses premières BD et tout, des albums ouais, entiers avec des histoires entières et tout.
Et après, il a fait un thread sur Twitter où il postait ses vieilles BD. Bon, on atteint un niveau quand même de folie inégalable.
Ah, il était chaud, ouais, il y avait vraiment beaucoup de choses.
Ouais, ouais.
Mais il y a pas longtemps, j'ai vu Denis Bajram aussi qui publiait genre les BD Goldorak qu'il avait fait quand il était gamin.
Ouais.
Et genre les trucs, je sais plus quel âge il avait, mais il avait 14 ans, il tapait des bouquins de 50 pages comme ça, tu vois. Moi, jamais je faisais ça. Hein. C'était vraiment genre 3 pages et après je l'ai balancé. J'avais pas vraiment d'attache non plus au dessin, genre je gardais rien presque.
T'aimais pas plus le dessin que ça quoi?
Si, j'adorais ça, je voulais en faire mon métier depuis gamin et tout.
Mais je sais pas pourquoi.
J'ai commencé vraiment à charbonner plus tard, je pense, au milieu d'adolescence quoi. Où là vraiment je me forçais les week-ends, le soir à dessiner pour progresser, pour m'améliorer et tout, etc. Mais la BD en soi, pourquoi, je comprends toujours pas aujourd'hui.
Et le dessin?
Et le dessin, pareil, quoi, c'est vraiment... Enfin, en fait, je savais que j'avais un petit peu de facilité et qu'autour de moi, on m'encourageait, je pense. Et du coup, je me disais, bon, bah, vas-y, je vais faire ça, je vais trouver un truc dans le dessin. Et puis après, à l'école, j'étais nul. Donc,
c'est par feignantisme que t'as fait du dessin?
Non, justement, après, moi, j'ai fait, en gros, j'ai fait 2 secondes générales. Je pensais faire des trucs artistiques plus tard.
Pourquoi t'as fait 2 secondes générales?
Parce que j'étais nul. Non, j'étais pas concentré, j'aimais pas ça. Je voulais être indépendant très rapidement. Et du coup, genre après, je suis passé en apprentissage dans le graphisme. Je suis rentré en CAP, j'ai fait 2 ans de pré-presse, 4 ans de pré-presse. Et après, j'ai bossé sur des chantiers pendant 10 ans dans la publicité où j'installais des enseignes, etc. Et je continuais à dessiner en même temps et à monter des projets, à les envoyer aux éditeurs. Et c'était nul. Et du coup, ça trouvait pas d'éditeur. Et voilà, mais ça a mis vachement de temps, quoi. J'ai signé ma première à 27 ans, donc voilà.
Bah c'est merci d'être venu en matière.
Il nous a fait la face là.
J'ai plombé.
Non, mais par exemple, est-ce que tu étais dans tes années primaires et collège le meilleur dessinateur de ta classe?
Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu cette question pour Ron aussi.
Ouais.
Il va juger toutes nos questions maintenant.
Non, mais parce que je me suis posé la question en même temps quand je l'ai entendu.
Ouais,
je crois qu'il y avait toujours un truc comme ça quand même.
Ouais.
Genre, c'est Sylvain, c'est le gars qui dessine, tu vois.
Ouais.
Mais un peu le gars chelou aussi, genre qu'au fond de la classe et qui passe son temps à dessiner. C'est sûr, je pense que je dessinais beaucoup en cours, ça a pas dû trop aider. Mais voilà, et j'étais aussi le gars genre qui détestait toutes les matières artistiques. J'aimais
pourquoi
pas ça, genre faire des collages et tout ça, ça me faisait trop chier. Et du coup, j'ai eu un rapport à l'art un peu particulier, un peu de rejet presque.
Mais c'est marrant de pas faire de lien entre tes goûts enfin ton amour de fait de dessiner et aucune référence.
Je crois que même petit, genre j'avais un truc très technique avec le dessin, genre moi j'aime dessiner, j'aime le trait et j'aime pas grand-chose de plus. Après évidemment aujourd'hui ça s'est développé quand même, je suis pas aussi relou, tu vois. Genre quand je vais dans un musée, je suis pas là, ah putain, l'art. Mais non, mais je dessinais des histoires, des petites histoires à la con, où je recopiais vraiment beaucoup.
Genre
j'ai recopié très tard tous les mangas que je lisais, toutes les BD que je lisais, tous les trucs que je pouvais trouver, je les recopiais. pas grand chose de réaliste, ça c'est venu plus tard aussi. Mais en vrai, je me suis aussi beaucoup mis à la formation anatomique il y a pas très longtemps, quoi. Pendant que je faisais de la BD, quoi, où je me suis dit, ah putain, j'ai des lacunes vraiment vénères, il faut vraiment que j'apprenne à dessiner un jour, en fait, quoi. Tu vois?
Donc, est-ce qu'on peut parler de... C'est bon, Aurélien, là, on peut en parler de la première BD?
Fais-toi plaisir.
Alors, qui est donc?
La première BD, du coup, c'est parce que c'est un, je pense, c'est un souvenir de première vraiment porte vers la bande dessinée. C'est le tome 1 de Fly, que ma mère m'avait ramené du Canada. Et j'ai jamais lu la suite d'ailleurs, je suis un peu deg, j'attends que ce soit réédité parce que bah, c'est introuvable comme truc.
Ah
et,
ouais,
ouais, c'est une galère à trouver, tu peux en trouver d'occasion, mais c'est vraiment compliqué. Et je sais pas qui a les droits, mais si vous nous entendez, rééditez Fly parce qu'il paraît que c'est génial. Il y a des gens qui préfèrent Fly à Dragon Ball quand ils ont lu les deux.
Ah ouais?
Ouais.
Damn.
Et du coup, moi j'avais lu ce tome 1 et je crois que je l'ai lu en boucle. Et genre vraiment le tome 1, c'est un exemple parfait de qu'est-ce que c'est que le shonen, tu vois. Bah, franchement, du coup, j'ai lu que le tome 1, tu vois.
Ça parle de quoi, ce tome 1?
C'est l'histoire d'un gamin qui est perdu sur une espèce d'île déserte et qui vit avec des animaux. Il arrive à leur parler, à les commander. Bah, c'est une espèce de Sangoku, en fait, quoi, tu vois.
Il ressemble à Sangoku, et... d'ailleurs.
Ouais, tu sais, c'est un peu dans les mêmes codes. Mais je me demande si c'est pas, il doit y avoir des liens, parce que je crois que c'est l'auteur de Dragon Ball qui a chara-designé Dragon Quest, qui est genre, enfin une partie de Dragon Quest. Je crois qu'il y a des ponts et des liens avec toute cette période, et du coup, comme Fly, je crois que c'est un peu en lien avec aussi Dragon Quest, le jeu. J'ai pas trop les refs. Mais en tout cas, c'était ma première porte d'entrée vers le shonen. Puisqu'après, le gamin, il sauve une princesse, il se retrouve avec une espèce de collier magique, et puis il a un pouvoir caché, et puis, je sais pas, il se tape un espèce de délire Super Saiyan sur son île, il éclate tout, il sort une épée, il coupe la mer en deux, tu vois, tout ça dans le tome 1.
C'est ça qu'on veut.
Et,
histoire
et...
vraie, en somme.
Bah oui, bien sûr. Du coup, je sais pas, je crois que c'est la première fois où vraiment, tout ce que je lisais avant, c'était plutôt des trucs humoristiques, tu vois, où les histoires, elles étaient cool, mais j'étais pas transporté émotionnellement. Et là, il y avait vraiment un truc d'émotion pure en le lisant, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux lire des shonen, en fait. Sauf que, bah, on n'avait pas trop de thunes, je vivais vraiment dans un coin paumé, il n'y avait pas de librairie. Je pense que la première librairie SP autour de chez moi, elle devait vraiment être à une heure de route facile.
T'as grandi où? Rappelons-le.
Dans un bled qui s'appelle la Garde Freinet, c'est à côté de Saint-Tropez. C'est vraiment un tout petit village dans la montagne, et il devait y avoir, je sais pas, 1500 habitants, un truc comme ça. Mmh. Du coup, j'avais ce tome 1 de Fly, je l'ai lu en boucle pendant longtemps. Puis après, j'ai des potes qui ont commencé à avoir des mangas, qui eux avaient un petit peu plus de thunes, du coup, ils avaient des parents qui leur offraient un peu plus de mangas, et là, j'ai commencé à lire, je pense, les premières portes, ça devait être Naruto, parce que moi, j'étais au collège quand Naruto et One Piece ont commencé en même temps.
Ouais.
Et du coup,
fin 90,
je suis jeté dessus à fond, ouais.
C'est un roi du fou.
Bah, je sais pas, je semble fou.
Non, mais je veux dire, t'étais...
Ouais, Naruto, surtout, je pense, c'était ouf. Même vers One Piece, je continue encore aujourd'hui, quoi. J'ai vraiment une grosse attache émotionnelle à One Piece. Hein. Je pense que je suis pas du tout objectif sur One Piece, quoi. Je dirais toujours que c'est bien. Non, il y a des trucs que je trouve moins bien, mais vraiment, j'aime One Piece de fou, quoi. J'adore les personnages et je voudrais que ça s'arrête jamais, quoi. C'est une espèce de truc d'amour fou d'adolescent. Naruto m'a un peu plus déçu sur la fin, donc voilà, mais genre là en ce moment, parce que du coup bah c'est un peu en lien avec la deuxième BD, mais quand je suis arrivé ado, enfin en fin d'adolescence, j'ai commencé à me dire il va peut-être falloir que je lise d'autres trucs. Donc j'ai commencé à je suis arrivé à Toulouse aussi vers mes 15 ans. Et du coup, il y avait des librairies SP, donc je commençais à rentrer en librairie SP et à demander des conseils, genre qu'est-ce que je peux lire en bande dessinée maintenant, parce que moi je voudrais faire de la bande dessinée. On habite en France, je pourrais sûrement pas faire du manga, donc je voudrais savoir un petit peu dans quoi je me lance, quoi. Mais et donc, à cette époque-là, j'ai revendu tous les Naruto que j'avais réussi à avoir, je devais en être au tome 20-25, pour m'acheter Peter Pan de Loisel. En partie, hein, parce que...
Les étapes, c'est terrible.
Ouais, non, mais bon, bref, je fais une petite aparté, quoi, mais... mais voilà, et du coup, c'était ma porte d'entrée sur le shonen, et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est... même le manga, d'une manière générale, c'est ce que je lis le plus, et le shonen manga, c'est le truc qui arrive encore à m'émouvoir. Alors que je vois les codes à fond, quoi, et que je les connais par cœur, mais ça marche, quoi. C'est toujours efficace sur moi.
Et tu consommes d'autres choses, genre des jeux vidéo, des animés, à ce moment-là, quand t'es plus jeune?
Ouais, carrément, ouais. Ouais, pas mal d'animations japonaises, mais en gros, je regardais en animé ce que je lisais, quoi. Tu vois?
J'étais ouais, donc t'étais quand même, t'es bien à fond là-dedans, quand même.
Ouais, ouais, carrément. Mais même encore aujourd'hui, j'ai moins de temps, mais je regarde encore pas mal d'animations. Je suis assez fasciné par le travail d'animation 2D à la japonaise, etc. Donc, j'en regarde pas mal. Je regarde même juste des phases, tu vois, d'animation parce que je trouve ça trop beau. Mais aujourd'hui, j'ai plus le temps de regarder une série fleuve comme One Piece quand on est à 1000 épisodes, quoi. Mais j'aime toujours ça. Je suis toujours curieux de ça. Alors, Aujourd'hui, je vois quand même beaucoup les ficelles. Alors, j'ai un peu du mal à, tu vois, j'ai un peu essayé tous les hits du moment, que ce soit Demon Slayer, je sais pas, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia. J'ai un peu du mal à rentrer dedans parce que, bah, je sais pas, je vois vraiment les ficelles, quoi. Mais je trouve ça toujours un peu cool. Il y a toujours un petit moment où ça va marcher sur moi. Après, il y a des trucs sur qui m'ont fait décrocher, quoi. Genre, j'ai un peu du mal avec le male gaze à la japonaise, j'ai un peu du mal avec le fan service à fond. Ouais. Donc ça, ça m'a fait décrocher. Mais je sais que j'essaie toujours d'avoir un esprit shonen, je pense, dans ce que j'écris. Même si des fois, j'essaie de prendre le contre-pied aussi de ça, mais il y a toujours un délire de parcours initiatique, etc.
Et donc, quand t'es gosse, en tout cas, tu te lances pas dans l'écriture de bande dessinée, c'est ce que tu nous dis?
Petit, je pense pas qu'il y avait trop l'écriture qui se développait, ouais. Quoique, remarque, non, mais c'est arrivé vraiment ado, ça. Ado, j'ai commencé à me dire vraiment, j'ai envie d'écrire des histoires. Mais j'étais nul aussi, hein. Parce que moi, j'étais une catastrophe à l'écriture, la rédaction au lycée, au collège, c'était vraiment une catastrophe. C'est vraiment taper des moins 50 en dictée, c'était vraiment un désintérêt total. J'ai eu un moins 50 en dictée.
Comment ça marche?
Ouais, je sais pas, tu sais.
Plus de fautes que de mots, c'est possible ça?
Une faute par mot, je pense, tu vois, sur un texte de je sais pas combien de mots. Ouais, j'étais pas fort en maths non plus.
Et ni en art plastique, puisque tu détestais ça.
Bah si, en art plastique, en vrai, j'avais toujours les meilleures notes, mais j'aimais pas ça quand même. J'aimais pas trop ça, c'est arrivé plus tard quand même, parce qu'après, quand j'ai fait cette alternance-là de pré-presse, de PAO, j'avais quand même beaucoup plus de cours de culture artistique, etc. Et du coup, j'ai quand même pu m'y intéresser un petit peu plus. Mais c'était plus en parallèle, genre, je voyais un petit peu la porte d'entrée que les cours essayaient de nous donner, mais il fallait aller chercher soi-même quand même, parce que tu tapais des cours de design où il fallait dessiner des brosses à dents, bon... Ouais. Ok, j'avais la meilleure... Je dessinais peut-être la plus belle brosse à dents, tu vois, mais ça me fascinait pas quand même de dessiner une brosse à dents, quoi. Ça, c'est vraiment genre épreuve du bac, hein. Ça, je m'en souviens. Ouais, ouais. J'ai eu 19, je crois. Super brosse à dents.
Elle était belle. En vrai, elle était cool.
Comme brosse à dents?
Ouais.
Je sais pas, il devait y avoir des histoires de design, genre là, tu la retournes, elle te frotte la bouche, j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Voilà. Parce que c'était du design, tu vois, donc faut que tout soit utile, quoi, mais. Voilà.
Tu revends tes Naruto, alors. C'est ça l'histoire.
Ouais, pour la suivante. Je passe à la suivante.
Non, non, mais c'est pourquoi tu décides de les revendre?
Ben, j'avais pas de thunes. Ouais, c'est tout. Et je m'intéressais moins, enfin, j'avais moins la tâche de l'objet, je pense. Enfin, je voulais juste engloutir des trucs à ce moment-là, je crois.
Quand tu dis que t'avais pas de thunes, du coup, comment tu assouvis ta soif de manga? Tu les empruntes?
Ouais.
Tu voles un peu?
Non, non, je vole rien, mais on me les prête, je pense, pas mal. Je pense que je me faisais prêter pas mal de trucs, mais je crois que je lisais surtout en boucle les mêmes trucs, quoi. Je crois que j'ai pas lu beaucoup de choses, en fait. Quand j'ai commencé à toucher mes premières payes, j'ai commencé à m'acheter beaucoup plus de bandes dessinées, mais c'est pour ça que je dis que j'ai pas une énorme culture BD non plus, parce que j'ai pas été super vorace de bandes dessinées en général, quoi. J'ai beaucoup tourné en boucle sur les mêmes trucs, relu Dragon Ball en boucle. Et il y a que plus tard où ça a commencé à arriver, où j'ai commencé vraiment à diversifier un petit peu mon... Enfin ouais, les BD que je lisais, mais genre, il y a plein de rêves que j'ai pas, quoi. Aujourd'hui, avec Talion, comme c'est catégorisé SF, souvent on va me parler de Jodorowsky, de Moebius.
Bien sûr.
Jamais lu. Désolé.
C'est pas ouf. Non, ne fais pas ça.
Non, mais j'ai déjà ouvert les Métabarons, quoi, mais j'ai pas trop accroché. Et après, j'ai beaucoup regardé le travail de Giraud / Moebius, quoi, mais beaucoup regardé, je trouve ça trop beau, mais j'ai jamais, genre, je suis jamais rentré dans l'incal ou quoi, voilà. Donc tu vois, j'ai plein de rêves. Quand je suis genre à Angoulême ou des trucs comme ça, où je me retrouve avec des tables avec beaucoup d'auteurs et ça parle de BD, je te promets, je suis là. Ouais, ok. Il y en a un qui a lu Naruto, là, dans le coin.
Il y en a de plus en plus qui lisent Naruto.
Ouais. Nous, ça devient de plus en plus régulier que les jeunes auteurs et moins jeunes nous parlent 90% de manga, quoi. Ouais. Ça paraît normal, en fait. C'est nous, à la base, la blague, c'était quand même qu'on avait fait un podcast sur Tintin. Personne ne parle jamais de Tintin, à part des gens de plus de 50 ans.
C'est faux, Jim Bishop a parlé de Tintin.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais en vrai, je lisais Tintin. Mon père, il avait les Tintins. D'ailleurs, je croyais qu'ils étaient à
Merci.
Moi.
Merci.
Et ouais. J'ai compris qu'ils étaient pas à moi quand j'ai eu mon premier appart et que je lui ai demandé de me les envoyer et qu'il m'a dit, bah non, en fait, c'est moi qui les ai payés.
Tu sais, ce qui est dur dans cette info, c'est que t'as dit que tes parents, ils aimaient pas la BD et qu'ils avaient pas de BD. Et ils avaient Tintin.
Genre, reverse, ouais, mais je pense, je sais même pas
si c'était
à lui.
Pour toi, Tintin, c'est pas de la BD et ça, je le prends comme une attaque personnelle.
Je pense que pour mon père, c'était juste des bouquins, quoi, tu vois. Je suis même pas sûr qu'il les ait lus. Ouais.
Toi, tu les as lus?
Je pense que j'en ai lu quelques-uns, ouais, quand même. Je sais pas si je les ai tous lus. Je me rappelle de Tintin, il y avait eu une réédition de Tintin chez les Soviets, je crois, c'est ça?
Ouais.
Qui est pas genre le premier ou un truc
c'est
comme
gentil,
ça?
Ouais.
Celui-là, je crois, j'ai lu plusieurs fois parce que je kiffais, genre c'était MacGyver, le gars.
Oh ouais, c'est MacGyver.
Un peu noir et blanc et tout, avec un petit côté un peu. Ça, j'aime bien, moi, celui-là.
Un peu idiot, ouais.
C'est une espèce de James Bond / MacGyver,
ouais,
c'est un peu chelou. Mais je sais pas, j'ai un bon souvenir de celui-là, je sais pas trop pourquoi.
Bah, c'est un peu un shonen, hein. Il se bat avec des gens, on sait pas trop qui c'est des archétypes de méchants et tout. Et puis on sait pas qui c'est au début, puis au final il arrive à sauver tout le monde.
Ouais,
il y a peut-être un côté un peu shonen au fond. C'est un manga en fait.
Faudrait que je le relise en vrai. Ouais, faudrait que je le relise.
Mais alors, moi, ce qui m'intéressait tout là, c'est tu dis genre, t'arrives à Toulouse et tu te dis, bon, le manga en France, ça marchera jamais. Faut que je change peut-être de focus. Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Je me dis pas forcément le manga en France, ça changera jamais, mais à partir du moment où je découvre les premières BD, on va dire avec des scénarios adultes, je me dis que ce que j'ai envie d'écrire, c'est pas forcément du manga.
Okay.
Je me dis que j'ai plus envie d'écrire des scénarios plus noirs, que j'ai envie de m'intéresser aux zones grises, et que ça, je le trouverais pas forcément dans le shonen. Et alors après, si tu veux commencer à faire du seinen, ouais, manga français seinen, là, tu commences vraiment à te tirer une balle dans le pied en tant qu'auteur français, quoi.
Là, c'est chaud.
Il y en a qui testent, hein. Franchement, bravo. Mais quand tu vois même encore aujourd'hui, hein, les auteurs shonen qui ont percé en France, il y en a vraiment pas beaucoup, hein. Ouais. Il y en a quoi? Il y en a deux. Il y a Tony Valente et Renaud Lemaire.
Ouais.
Et voilà, je crois, c'est tout. Après, il y a Last Man, mais Last Man, c'est un cas particulier un petit peu, quoi.
Ouais, c'est un projet plus large, ouais, on va dire.
Donc, c'est quand même très, très dur de faire sa place en manga français. Je pense que ça va arriver et que le public commence à être habitué à voir des auteurs qui vraiment se sont appropriés la culture japonaise, la façon de dessiner, etc. Mais ils sont quand même très, très durs, hein. Les lecteurs de manga, il faut vraiment que ça ressemble à du manga, quoi.
Donc c'est du pragmatisme qui te pousse à te tourner vers la BD adulte.
Je pense qu'il y a un truc comme ça, non, mais je pense qu'après aussi, tu sais, tu grandis et tu as envie de lire autre chose que juste des mecs qui se bastonnent, quoi. Enfin, il y a un moment aussi où, quand je suis arrivé, je devais avoir 15 ans, j'ai commencé à me dire, bon, c'est cool, je lis Naruto. Peut-être que aussi mon entourage devait me dire, bah, ce serait bien que tu lises autre chose, quoi. Donc peut-être que j'étais un peu poussé. Franchement, je sais plus.
Tes parents, ils disent quoi de ton amour du manga quand t'es jeune?
Ouais, c'est moche.
Ouais.
Franchement, c'est le truc dont je me souviens le plus. Après, avec mon père, j'en ai pas vraiment de discussion d'une manière générale. Mais avec ma mère, parce que je regardais pas mal Club Dorothée, etc., évidemment.
Bien sûr.
Et du coup, genre, c'était vraiment, c'est moche d'éteindre la télé, quoi. Enfin, elle a toujours trouvé ça vraiment moche, et je pense que même encore aujourd'hui, elle dirait ça, c'est moche. Parce que, bon, elle les a vu un peu arrêtés des fois, la pauvre. Non, mais maman, je t'aime, mais voilà, elle les a vu arrêtés, c'est chaud. Et du coup, je pense que j'avais un peu ça.
Tu leur dis, toi, que tu veux dessiner des mangas, des BD?
Bah moi, j'en dessinais, je copiais que ça, hein. Je copiais Sangoku 1000 fois, quoi. C'était
ils disent quoi, putain, ils copient des trucs moches?
Ouais, c'est ça. Bah, elle m'encourageait quand même, hein, dans tous les cas, mais de toute façon, il y avait toujours un truc avec le dessin et la bande dessinée de faire un vrai métier d'abord, de toute façon. Donc ça a toujours été laborieux, de toute façon, de devenir auteur, quoi. Mais je pense que c'était un peu cette opposition qui m'a fait m'acharner, quoi. Genre, je suis vraiment un peu obstiné, donc si j'ai une idée, si ça met des années, c'est que je lâcherai rien, quoi. Donc, je pense que ça m'a encouragé. J'aurais bien aimé être encouragé différemment, quoi. Mais ouais, il y avait ça. Et le manga, ouais, il y avait vraiment un truc de, ouais, c'est moche.
Mais à 15 ans, tu te dis, ouais, je ferais de la BD, il n'y a pas d'autre option, quoi.
Bah si, enfin, il y avait des options pragmatiques, genre, fallait faire de l'argent et se barrer et avoir son premier appart le plus vite possible. Donc je suis rentré en alternance, j'ai commencé à avoir mes premières payes, je me suis fait émanciper à 16 ans, j'ai pris mon premier appart. Puis après voilà, je bossais, j'achetais des BD. Voilà, et je continuais à dessiner tout le temps, j'avais un tout petit bureau là dans un appart de 20 mètres carrés. Et puis je bossais tout le temps, enfin je dessinais tous les week-ends. Et voilà. Bon après il y a eu des phases quoi, tu vois, il y avait des années où vraiment je dessinais beaucoup. Et puis des années où je sais pas, j'allais découvrir un sport et j'allais me mettre à fond dans un sport. Donc je pense que ça a été un peu en dents de scie tout ça quoi. Mais le dessin il est toujours resté, il y a toujours eu une espèce de culpabilité à pas dessiner quoi.
C'est-à-dire que t'avais une sorte toujours de double cursus, genre dessinateur artiste et sportif.
Non, je voulais pas être sportif professionnel, mais tu sais, des fois, quand tu découvres un milieu sportif, t'as 18, 20 ans, ouais. Bah ouais, t'as tous tes potes, t'es en match un week-end sur deux, donc du coup, tu décroches un peu du dessin.
On parle de quel sport?
Football américain. J'en ai fait quelques années, pas très longtemps, parce que je me suis vite blessé.
Mais t'adores, toi, Aurélien, le football américain.
Je m'intéresse au football américain, j'aime beaucoup.
Le sport US en général.
C'est vrai. Moi, c'est surtout le baseball, mais à Orléans, on avait les Chevaliers d'Orléans, tu vois. Donc,
ouais, il y a toujours des noms stylés. Hein. C'était les Ours de Toulouse.
Ouais, voilà. C'est comme le baseball, tu vois. C'était genre les Red Castors d'Olivier. Bon, bah. Pff.
C'est quoi le pire nom d'équipe de France en football américain?
Il y a les Cougars, pas loin.
Les Cougars.
C'est à Saint-Ouen, non?
Je crois.
Et ils nous ont battus en finale de championnat de France.
De toute façon, ce qui est toujours marrant, c'est que c'est souvent des petites villes, tu vois. Il n'y a jamais. Enfin, nous, c'était toujours.
C'est Paris, mais c'est les Flash, je crois.
Ah oui, si, donc en football américain, ça va. Parce qu'en baseball, c'était genre, je sais pas, Jouy-en-Josas. C'était des équipes, tu vois, nous, c'était pas Orléans, c'était Olivier. Enfin, tu sais, ça avait pas de sens. On aurait dit des secondes ligues de fou. Je trouvais ça marrant.
Bah, parce que il y a très peu de divisions, quoi.
Ouais, ouais.
Football américain, je crois, il y a 3 ou 4 divisions, donc.
Ouais, puis t'es obligé de faire beaucoup de kilomètres pour faire des matchs parce qu'il y a peu d'équipes.
Ouais, mais c'est cool, c'est associatif et tout.
Toi, tu jouais première ligne, toi, non?
Ouais, moi, je jouais au line au tout début.
Ouais.
Et après, un petit peu de D-line, et puis j'ai le genou qui a craqué 2 fois.
Ah, merde, ouais, ça, c'est le problème.
Et c'était fini. Mais bon, c'est sûr que c'est un truc qui a dû me faire décrocher du dessin, ça, pendant quelques années.
Bon, et du coup, Peter Pan, alors. Tu rentres dans la boutique, tu dis, reprenez mes Naruto et éduquez-moi.
En fait, j'étais au lycée juste à côté d'une petite librairie qu'il y avait vraiment sur la grande place de Toulouse. Et je pense que je devais venir souvent pour zioter, tu vois, et puis acheter des trucs un peu en mode random, parce que c'était... En fait, toutes les BD, elles étaient derrière le comptoir, c'était encore une presse à l'époque. Mais c'était vraiment une librairie spécialisée, mais ils avaient 2-3 tourniquets de BD franco-belge, et puis après, au fond, c'était une espèce de caverne d'Ali Baba d'un mètre carré, mais sur 5 mètres de haut, avec une échelle au milieu. Et donc, fallait vraiment demander conseil si tu voulais des trucs. Et donc, je crois qu'ils avaient tous... Enfin, il y avait 3 libraires, et ils devaient avoir toutes et tous un peu leur spécialité. Et donc, selon sur qui je tombais quand j'y allais, on me conseillait un truc différent. Et donc, je crois que je sais pas comment je suis arrivé à tomber sur Loisel. Je pense que quand même, bah, c'est un classique. Donc, et puis, c'était quand 7 tomes et c'était fini. Je crois que c'est 6 ou 7 tomes, je me rappelle plus. Et du coup, j'ai lu ça. Je pense que ça a été un peu la révélation de « Ah ouais, ok, on peut écrire ça aussi en bande dessinée, quoi. On peut vraiment écrire différemment, on peut avoir un propos très noir, on peut aussi avoir des persos très contradictoires, très gris, quoi. On peut te faire adorer un personnage et en même temps peut-être te faire penser que c'est Jack l'Éventreur. » Et puis même dans le trait et tout, j'adorais Loisel, quoi. Je pense que ça a été un peu un espèce de coup de poing, genre de mon amour pour le détail. Mais c'est un truc que j'ai un peu retrouvé aussi dans le manga, dans le petit trait et tout, mais je crois que Loisel, ça a été un peu... J'ai essayé de répliquer ce que faisait Loisel pendant très longtemps, sa façon de faire, de dessiner les herbes, sa façon de dessiner la nature, de dessiner même le brouillard, je me rappelle, avec des tout petits points et tout, etc. Et je crois que cette passion de voir que le dessin, c'était un truc laborieux et que ça pouvait me plaire, bah, je crois que je suis rentré à fond dedans. Et,
donc ça t'a choqué, tu t'es mis à recopier Loisel à fond?
Non, je recopiais pas Loisel, mais je pense que je recopiais son style. Enfin, tu vois, genre, il infusait, quoi. Je me mettais pas comme je recopiais Dragon Ball, où vraiment je recopiais trait pour trait les trucs, tu vois. Juste, je le lisais, je le relisais, et puis je regardais beaucoup. Et je le fais encore aujourd'hui, ça, des fois, hein, genre... Ah putain, j'ai un tronc à dessiner, quoi. J'ai un arbre à dessiner. Comment lui, il fait l'écorce? Comment lui, il fait l'écorce, tu vois? Et d'ouvrir 3-4 BD, regarder comment est-ce que les mecs, ils dessinent l'écorce et quel est le moyen le plus simple et le plus efficace de le faire. Et puis après, t'essaies de t'approprier le truc. Et je crois que c'était vraiment le début où je commençais aussi à dessiner par moi-même. Et du coup, à trouver un petit peu, entre guillemets, mon propre style à travers mes dessins et à dessiner mes propres trucs et à écrire mes propres histoires. Alors, c'était vraiment nul, hein, mais...
C'était quoi, par exemple?
Oh, je sais pas, c'était toujours une espèce de duo de mecs qui arrivait face à un dictateur et qui lui tranchait la tête, quoi.
Efficace.
Je pense que c'était ça. Puis à l'époque, je dessinais encore en tradi, donc je sais pas pourquoi, j'avais une idée du dessin, il fallait dessiner sur des très grands formats, donc genre je m'achetais des feuilles au format raisin, quoi. Donc tu vois, c'est immense, c'est plus grand que le A2. Et puis je dessinais là-dessus, ce qui était stupide, parce qu'en vrai, j'aurais dû commencer avec du A3 ou du A4, tranquille, et envoyer des planches. Et du coup, je mettais 3 semaines à faire une planche. Donc que je finissais par jeter. Et voilà, j'essayais de mettre en couleur moi-même. J'en ai encore hein, chez moi des planches comme ça.
Et alors, tu les as revues?
C'est affreux, quoi.
Ah ouais?
Ouais, c'est affreux.
Non mais genre 0 sur 20, quoi.
Ouais, mais même la narration, ça a aucun sens, ça se lit pas, quoi, en fait. C'est, tu vois, il y a aucune... C'est pareil, bah après, c'est le tout début aussi où je commence vraiment à écrire en bande dessinée, quoi. À essayer de comprendre comment est-ce qu'on place les bulles, comment on place les cases, etc. Mais c'était encore vraiment full autodidacte, j'avais aucun contact avec qui que ce soit dans la bande dessinée. J'avais jamais montré mes planches à qui que ce soit autre que ma daronne et mes potes, quoi.
Qui disaient quoi?
Ils disaient « Oh, c'est génial, c'est super, tu vas être auteur de BD, tu vois ». Mais en vrai, ça pue la merde et t'as besoin de quelqu'un qui va te dire « Bah non, c'est nul ». Donc, va falloir apprendre à tracer une perspective, mon gars, parce que si tu veux faire du dessin réaliste, ça va pas marcher, en fait. Donc, ça m'est arrivé un peu à la même période. Je devais avoir 17 ans et toujours à Arcade Press, donc qui était cette librairie, là. Je commence à demander, parce que j'étais moins timide vu que je commençais à parler un peu plus au libraire. Commençais à me connaître, donc des fois je restais une heure dans la librairie à discuter, quoi.
C'est cool, ça.
Et en fait, il me conseille d'aller toquer à la porte d'un studio d'auteur, quoi. Et vraiment pas loin de mon lycée, il y avait un atelier avec plusieurs auteurs, dont Tony Valente, donc, qui est l'auteur de Radiante, là. Et à l'époque, il bossait sur... je pense qu'il devait bosser sur une série qui s'appelait Anna Hattori chez Soleil, qui était en gros très inspirée par le manga, mais c'était du... Il mettait quand même de la couleur parce que c'était du grand format et qu'il fallait que ce soit en couleur. Et il commençait à faire le pont vers le manga de plus en plus. Et franchement, c'était trop beau. Hein. Si vous pouvez regarder des planches d'Anna Hattori, c'est impressionnant. On dirait des screenshots d'animé, quoi. C'était complètement fou ce qu'il faisait. Donc, il y avait plein de gens dans cet atelier, mais il se trouve que c'est Tony qui m'a reçu. Et du coup, on s'est posé. Je lui ai montré mes planches. Et avec toute sa bienveillance, il m'a dit... Non, vraiment. Enfin, là, je dis pas... C'est vraiment... Il était super, super sympa.
Tu vas taper à la porte, t'appelles, t'envoies un mail.
Non, je sonne. C'était vraiment dans la rue, il y avait marqué l'aquarium.
Tac, tu pars avec, il existe encore avec tes papiers raisins dans le dos?
Ouais, je viens avec une pochette à dessin et deux, trois trucs, des villes que j'avais dessinées, parce que c'est aussi l'époque où je commençais à dessiner beaucoup de décors.
D'accord.
Mais par contre, le truc, c'est que vraiment, j'y connaissais rien, donc je traçais même pas de point de fuite, quoi. Je savais pas comment la perspective marchait. Donc je faisais tout à l'œil.
Et tu te dis quoi? Ok, je vais lui en mettre plein la gueule, il va halluciner de mon
niveau. Non, non, pas du tout. J'étais pas du tout prétentieux. Je chiais dans mon froc, je suis arrivé en tremblant.
T'avais quelle estime de ton travail, du coup? Parce que c'est coulu d'aller voir un auteur de BD.
Franchement, je pense que j'étais super critique. Que dans ma tête, j'allais vraiment me prendre une porte dans la tronche. Dans ma tête, je savais même pas si quelqu'un allait regarder quoi que ce soit de ce que je faisais. Je pense que j'allais me faire juste refouler, quoi, tu vois.
Donc tu arrives, tu sonnes.
Ouais. Et Tony me reçoit et il me dit genre, bah vas-y, viens, bois un coup, tranquille, on s'assoit. Il prend vraiment le temps, on reste une heure, je lui monte mes planches. Et il fait encore ça avec des auteurs, Tony et tout, quand on lui demande. Bon, aujourd'hui, il a beaucoup moins le temps parce que il fait du manga, quoi. Mais il a toujours cette bienveillance avec les auteurs, avec les jeunes auteurs. Et je sais qu'il en a accompagné plusieurs comme ça. Et du coup, bah, je lui montre mes planches. Il me dit un petit peu ce qui va, ce qui va pas, ce qu'il trouve cool, ce qu'il arrive à voir qu'il trouve cool. Enfin voilà.
En gros, il dit quoi?
Bah, notamment, surtout, le truc qui m'a vraiment après fait progresser de ouf, je pense que c'était la perspective, tu vois. Genre vraiment, il faut apprendre à dessiner des décors. Il va falloir commencer à tracer des lignes parce que ça va pas le faire. Je dis ça, mais je crois que lui, il fait tout à l'œil maintenant, tellement c'est une machine. Mais voilà, et du coup, bah, je rentre et je me dis, ah putain, en fait, il y a des règles, quoi. En fait, tu vois, il y a des règles dans le dessin, il y a des règles anatomiques, etc. Il va falloir commencer à bosser sérieusement. Et donc, je continue toujours à faire des planches.
Mais genre, du coup, tu restes motivé encore plus, quoi.
Ouais, grave. Ouais, ouais, carrément. Puis en plus, on garde le lien, il me file son adresse mail et il me dit, bah vas-y, t'as qu'à continuer à m'envoyer des trucs.
Mais il est génial, ce gars-là.
C'est cool. Ouais, ouais, grave. Non, ouais, carrément, c'est vraiment Tony. Encore aujourd'hui, je suis en lien avec lui. Il continue à... Là, il a partagé la sortie de Talion et on discute et... Je continue même encore à lui envoyer du taf comme un peu moins maintenant, quoi, mais je vais lui dire, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses et tout. Et donc on a gardé ce lien et il m'a beaucoup accompagné au tout début. Vraiment, ça a été mon premier tremplin qui m'a fait très très vite progresser, quoi. Et là, j'ai commencé à monter des vrais projets, à écrire et à chercher des éditeurs et à vraiment faire des planches. Ça a pris quelques années, mais là, je construisais vraiment en planche. Alors des fois, je faisais du noir et blanc, vraiment, j'essayais de faire du manga quand même. Et des fois, je faisais de la couleur, j'avais une espèce de projet, je me rappelle, j'avais fait une adaptation de Robin des Bois, je crois, où c'était un peu du shonen quand même, genre il y avait de la grosse baston, il avait une énorme épée. Et il y avait un scénario qui ressemblait à une sorte de proto-Talion déjà. Genre c'était déjà un scénario écologiste avec un vieux. À peu près tout, tu vois. C'est là que vraiment ça a commencé à infuser. Et puis Tony, bah, je sais pas, je devais lui envoyer un truc tous les 15 jours. Avec 3-4 planches, et puis il me faisait des retours, genre là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Et ah il ouais m'encourageait aussi quand même.
C'est génial quand
et
même.
Et du coup, ça a duré quelques années, hein, franchement.
Mais tu fais quoi de tes journées? Enfin, à ce moment-là, tu travailles, tu fais des études?
Bah là, quand j'ai rencontré Tony, je pense que j'étais encore, je vais être encore au lycée, deuxième seconde.
Ouais.
Et après, bah, j'étais en CAP. Donc,
et alors, comment tu te retrouves en CAP? C'est parce que toi, tu le demandes ou?
Non, mais parce que ma mère, elle me disait, si tu veux pas faire d'études, bah, faut que tu gagnes ta vie, quoi. Donc il fallait que je trouve un métier. Puis on n'avait pas trop de thunes et ma mère était pas forcément heureuse à Toulouse, donc elle voulait repartir dans le sud-est. Et donc je me suis dit, bah moi je veux rester à Toulouse parce qu'il y a des librairies en fait, des cinémas accessoirement. Bah,
c'est la fameuse ville des libraires, Toulouse. Hein.
Ah non, mais bon, enfin.
Non, mais je vois ce que tu veux dire.
C'est une ville, quoi.
Ouais, ça aurait pu être n'importe quelle ville, mais du coup voilà, donc je fais tout pour rester. Donc il fallait que je gagne de la thune. Au début, je cherche même à devenir menuisier, enfin OSEF, quoi, tant que je pouvais gagner de la thune.
Stylé, menuisier.
Ouais, ouais, carrément, j'ai fait des stages en ébénisterie et tout, mais en vrai, il n'y avait pas tant de taf que ça. Et après, tout d'un coup, je sais pas comment je découvre, je pense que ma mère m'a vachement aidé quand même à trouver une boîte et tout, et à trouver une voie. Je trouve ce truc de pré-presse, là, de pur PAO, voilà, où tu vas vraiment apprendre à faire de la mise en page et du maquettage pour l'impression, faire de l'imposition, etc. Donc je fais ça, CAP plus bac pro, et en alternance tout le long. Je me retrouve même dans un bled tout paumé à côté de Toulouse, à trois quarts d'heure, où je faisais masse de train pour y aller, etc. Et je me fais embaucher tout de suite à la sortie, et je trouve du taf assez facilement, et je progresse vite là-dedans, et je commence à bien gagner ma vie avec et tout. Mais je continue quand même à me dire, non, c'est pas ça que je veux faire, quoi.
Tu te dis, t'as toujours cet objectif de bande dessinée?
Ouais, à fond. Bande dessinée à fond, je continue à écrire des scénars, à les envoyer, j'envoie un premier gros dossier aux éditeurs, je pense que je devais avoir 18 ans.
Ah ouais, mais jeune quand même. C'est clair, tu disais que...
Ouais, mais c'est affreux, quoi.
C'était affreux?
Bah, c'était... Je pense que c'était construit. Je me rappelle d'une fois, j'ai montré ce projet à Tony, j'étais retourné à l'aquarium, et il y avait un des auteurs sur place qui avait dit « Ah ouais, mais c'est pro et tout, tu sais. » Et Tony, lui, il avait dit « Ouais, enfin, pas encore, il y a encore du travail, un truc comme ça. » Donc... Non, pas du tout. J'étais conscient qu'il y avait encore du taf, tu vois. Mais fallait quand même le tenter. Parce qu'en fait, tu sais jamais. Tu peux. Même quand j'ai signé Les Métamorphoses, ma première série. Et en vrai, c'est surtout une vision d'éditeur qui a su voir qu'il y avait du potentiel, je pense. Mais il y avait encore beaucoup d'erreurs de dessin. Et moi, quand je relis Les Métamorphoses aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein d'erreurs, quoi. Mais c'était le moment où t'es prêt à être accompagné et à rentrer dedans, quoi. Bah, à l'époque, c'était pas le moment, quoi. Peut-être qu'il y avait des trucs qui c'était lisible, c'était compréhensible, c'était propre, tu vois, genre c'était bien mis en page, la couleur elle était faite numériquement, il y avait rien qui dépassait. Dans ce sens-là, c'était professionnel, mais il y avait encore plein de défauts, et puis ça racontait pas grand-chose, l'écriture était pas très intéressante. Et voilà, j'ai envoyé ce premier projet, et ça ressemblait quand même pas mal à du manga en couleur. Ça ressemblait pas vraiment à ce que faisait Tony, mais je pense qu'il y avait quand même pas mal de rapprochements à faire.
Il t'inspirait beaucoup ?
Ouais, grave. Ouais, carrément. Mais même plein d'auteurs de cette époque qui arrivaient à caler du manga un petit peu dans ce qu'ils faisaient. Il y avait une BD qui s'appelait Crossfire, là, je me rappelle, qui faisait des flous, qui rajoutait des speedlines partout. Il y avait un peu ce côté-là. Mais même, justement, toute la veine dont on parlait juste avant, Mutafukaz, mais aussi, il y avait tous les trucs de Lucha Libre, là. Je me rappelle plus comment ils s'appelaient, les auteurs. Et bref, c'était des brutes. Et pareil, il y avait tout un délire comics slash manga où vraiment ils ajoutaient pas mal de codes du manga dedans et tout. Et moi, j'aimais beaucoup ce truc, donc j'ai essayé de coller à ça. Ça me ressemblait plus en termes de genre. Et après, j'ai envoyé un autre dossier plutôt vers 21 ans, je pense. Donc, il y a eu des moments de creux quand même. Des moments sport et tout, je pense. Et puis c'est dur, quoi. En vrai, c'est dur, quoi. Tu vois, tu te prends un four, quoi. Tu reçois quand même des retours d'éditeurs qui te disent, bah non, c'est pas pour cette fois, quoi. Mais.
Ils t'expliquent pourquoi, les éditeurs, en général?
Jamais. Mais ils ont pas le temps, après, hein. Franchement, c'était déjà. La BD était déjà blindée de surprod. Franchement, les éditeurs, même ne serait-ce qu'avec les projets d'auteurs qu'ils connaissent, qu'ils doivent lire les projets de jeunes auteurs vraiment random, comme ça, envoyés à service éditorial, Delcourt, machin. Ou Glénat, je vais citer plusieurs marques, tu sais. Je me rappelle que je suis chez Glénat.
Camille nous regarde, attention.
Elle
nous écoute.
C'est difficile de mettre un retour, quoi, franchement. C'est compliqué. Donc, je peux le comprendre maintenant. Mais c'est un peu violent, quoi. Puis même, c'est dur, quoi. Enfin, progresser en dessin, c'est vraiment long, quoi. Tu dessines, tu redessines, t'es satisfait une semaine de ce que t'as fait, puis tu le balances, quoi. Ouais. Encore aujourd'hui, hein, c'est un peu ça. Donc je suis un peu un éternel insatisfait aussi, donc je continue le côté laborieux et tout. Et j'envoie un projet qui commence quand même plus à ressembler à de la BD réaliste, qui est là pour le coup vraiment une sorte de proto-talion, genre vraiment il y a un mec dans un rêve qui avance vers une créature et tout, etc. Et ça trouve pas d'éditeur non plus. Et voilà, et après je suis resté vraiment très longtemps sans projet.
Mais ta formation que tu suis là, elle te donne un peu de rigueur dans ton dessin ou?
Non, ça servait pas du tout. Enfin si, le seul truc que ça m'a amené, c'est qu'on apprenait le trio logiciel classique de PAO, tu vois, genre Photoshop, Illustrator, InDesign. Du coup, ça m'a amené les tics de graphiste, tu vois, genre les raccourcis clavier, les habitudes de graphiste, quoi. Et ça, je pense que je l'ai gardé aujourd'hui. Et un des trucs qui fait que je travaille un petit peu vite, c'est parce que j'ai été formé à ça, à travailler vite sur les logiciels, quoi. Et ça m'a appris un peu les bases de Photoshop, mais en vrai, on t'apprenait rien du tout, quoi. Donc, il fallait. Puis, c'était plus de la photo et de la retouche. Moi, ça m'intéressait pas tant que ça. Mais je pense que c'est à cette période-là où j'ai peut-être commencé à avoir mon premier ordi portable et ma première tablette graphique. Et où j'ai commencé à mettre en couleur, en numérique et tout. Voilà.
Tout à l'heure, tu nous disais que t'hésitais entre deux BD pour cette période.
Ouais, parce qu'en même temps, il y avait aussi la découverte de plein d'auteurs indés. Bon, même si c'était pas vraiment indépendant. Je crois que c'était chez Dargo, je crois. C'était Le Combat Ordinaire de Manuel Arsenet. Je pense que c'est aussi la découverte avec la BD intimiste et genre faire autre chose que du mainstream, parce que Peter Pan c'est cool, mais c'est toujours, on est dans la fantasy, on est toujours dans la BD de genre, etc. Donc ma porte d'entrée vers la BD plus intimiste, plus réaliste aussi, c'était Le Combat Ordinaire. Et pareil dans l'écriture, le fait de s'intéresser aux zones grises, aux personnages qui avaient des contradictions, à complexifier son scénario, à sortir du shonen, quoi, justement, quoi, et du côté très manichéen. Et voilà, donc du coup, je pense que ça a été une grosse porte ouverte. Après, ça m'a aussi ouvert la porte, du coup, vers le libraire, quoi. Genre, ah, j'ai lu ça, c'était trop bien. Donne-moi d'autres trucs plus indés, plus. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai commencé à découvrir un petit peu les BD de l'association en même temps, à m'intéresser à des trucs vraiment différents de ce que moi je voulais dessiner. Ça m'empêchait pas de toujours dessiner la même chose, mais au moins.
Tu t'es pas dit, tiens, je vais simplifier le trait et partir du.
Non, ça arrive plus maintenant. Genre le côté less is more. Enfin, là, à cette époque-là, j'étais quand même vachement dans une BD très laborieuse où je voulais mettre beaucoup de traits, je voulais mettre beaucoup de volume.
T'avais envie de souffrir un peu.
De couleurs. Ouais, bah toujours un peu aujourd'hui. Hein. Parce que même si aujourd'hui je m'oriente vers un trait plus léger, c'est pour travailler plus vite et plus, quoi, avoir un plus gros rythme et faire des plus grosses paginations. C'est toujours un peu la complexité d'abord. Mais voilà, du coup, j'ai hésité entre Le Combat Ordinaire et Loisel, mais en parlant, je me rends compte quand même que Peter Pan de Loisel, c'était vraiment la grosse porte d'entrée vers autre chose que le manga. J'ai un peu fait le parcours inverse. Genre, j'ai commencé vraiment par le manga, puis après, je suis allé dans le franco-belge.
Bah, c'est souvent le cas, quand même, des jeunes auteurs. Enfin, ou des un poil moins jeunes, mais bon, c'est souvent le manga qui ouvre la porte. Hein.
Mais à tous les parents que ça inquiète que leurs enfants lisent que du manga.
Ça doit changer aussi, voilà. À mon avis.
En vrai, après.
C'est tellement large maintenant, le manga, que.
Ouais, si t'es curieux, après, en fait, d'une manière générale, tu vas t'orienter vers un peu tout, quoi.
Quand tu ramènes Loisel à la maison, ça rassure ta mère ou...
Je sais pas, je sais même pas si elle a capté. Franchement,
tu lui en parles pas en fait de ça, de
ta... En fait, c'est surtout que j'ai du mal à me figurer si je l'ai acheté quand... Parce que je devais avoir 16 ans, je pense. Et il y a moyen que je vivais déjà, que j'étais déjà dans mon premier appart.
À 16 ans ?
Donc ma mère, elle habitait pas loin, mais après elle a déménagé genre un an ou deux ans plus tard dans le sud-est.
Donc tu t'es retrouvé à 16 ans tout seul dans ton appart ?
Ouais. Du coup, peut-être que j'ai acheté à cette période-là, je m'en rappelle plus.
Genre t'avais un argent de poche et tu faisais ce que tu voulais.
Mais j'étais apprenti en fait. Et j'avais, je crois, genre la pension alimentaire de mon daron et la CAF. Et je devais avoir, je sais pas, 700 balles par mois, un truc comme ça. Et...
Donc t'achetais des BD et des nouilles, quoi.
Ouais, voilà, ouais. Et j'étais à découvert, et voilà.
C'est-à-dire qu'entre 16 et genre, je sais pas, 20 ans, t'es jeune, t'es seul et tout, et tu fais de la BD toute la soirée, tout le week-end, tu fais pas la teuf.
Si. Donc, bah, regarde, ça fait pas tellement de projets, hein, parce que ouais. Je vois des auteurs qui ont signé beaucoup plus tôt, je pense qu'ils travaillaient beaucoup plus. Je me suis vraiment mis à charbonner la BD un peu plus tard, quand même, je pense. Mais je dessinais toujours, et je te dis, j'ai eu des phases, quoi. Je pense que j'avais des phases de 6 mois où je culpabilisais de pas progresser, du coup je me remettais à dessiner à fond. Après, à partir du moment où j'avais le lien avec Tony aussi, même si lui, bah, il s'en foutait, en fait, il répondait que si je lui envoyais, quoi, tu vois, c'est normal, il allait pas me mettre la pression, il avait autre chose à foutre. Mais j'avais toujours ce lien, quand même, pour me dire... lâche pas, quoi, genre, il y a quelqu'un qui te soutient, enfin, ouais. Voilà. Donc je revenais toujours au dessin, mais oui, évidemment, oui, j'ai eu des phases... Je pense que le dessin était très secondaire dans ma vie, quoi. Voilà. La jeunesse, quoi.
Tout classique. Ça. Ouais. Alors là, tu nous parlais de tous les dossiers que tu envoyais, qui n'avaient pas de réponse. À quel moment tu as eu une réponse ?
Eh ben, très tard. Hein. Enfin, j'avais toujours des réponses, mais c'était négatif, tu vois. Mais après, donc, j'ai déménagé dans un tout petit patelin qui était pas loin de Toulouse, mais je suis allé habiter là-bas parce que je m'étais fait embaucher sur place.
Toujours dans la PAO ?
Ouais, non, là je commençais vraiment à bosser qu'à la technique. Genre okay. Vraiment, ça découpait à la scie à panneau et ça montait sur les échafaudages pour installer des trucs, quoi.
Ok.
Mais je gagnais plus qu'en étant graphiste. Non, j'ai appris sur le tas. Mais après, j'ai commencé à me spécialiser dans 2-3 trucs que je faisais à peu près bien. Et du coup, quand j'étais là-bas, quand j'étais dans ce bled, j'avais une grosse table à dessin. Je dessinais pas mal parce que, en fait, j'avais rien d'autre à faire, quoi. C'était vraiment la campagne. Donc je crois qu'à cette époque-là, j'ai commencé à monter un nouveau dossier, mais je dessinais plus genre des grosses illustrations, des trucs comme ça, pour apprendre à faire plus de décors et à progresser là-dedans. Je crois que j'ai quand même monté un projet à cette époque-là que j'ai envoyé, et puis après, les dates se mélangent un peu dans ma tête. Et après, je sais que j'avais bossé en fait pendant mes congés dans une boîte en intérim, et 2 ans plus tard, cette boîte, elle me rappelle, elle était à Toulouse, donc je suis revenu à Toulouse, et là j'ai commencé à gagner ma vie correctement, donc à libérer du temps, à être dans une meilleure énergie... Et là, j'ai commencé vraiment à dessiner à fond. Et aussi, comme je m'étais pété les genoux au sport, enfin le genou, je me suis fait opérer parce que ça devenait insupportable au travail. Et mon opération s'est mal passée. Et en fait, dans mon malheur, j'ai eu 8 mois d'arrêt. Et j'ai acheté ma Cintiq, ma première tablette graphique. Et j'ai commencé à travailler en full numérique à ce moment-là. Et en même temps, j'ai rencontré la tante de mon ex-femme qui écrivait, en fait, pour elle, quoi, on va dire. Et je l'ai lancé. Je lui ai dit, bah écoute, vas-y, écris un truc, on verra. Donc elle a commencé à écrire un scénar de son côté, moi je poussais mes planches à fond, genre je refaisais les 2 premières planches de ce scénar en boucle jusqu'à ce qu'elle me plaise vraiment, à trouver mon style en numérique, et je pense que le numérique en 8 mois m'a fait progresser de fou, et on a signé comme ça. On l'a envoyé, en fait, par contre cette fois j'ai vraiment essayé de creuser pour trouver des vraies adresses mail d'éditeurs directs.
T'as envoyé 2 pages donc ?
Bah on a envoyé un gros dossier quand même, parce que moi je faisais toujours des dossiers énormes. J'écoutais pas trop le truc de un synopsis d'une demi-page et ouais. Machin, tu vois, j'étais toujours un peu genre ouais mais il y aura le synopsis d'une demi-page, mais si tu tournes la page il y aura aussi un pitch de 3 pages, tu vois, si t'as envie de le lire quoi. Donc on faisait des dossiers vraiment fat quoi, genre bah tout était écrit je crois, il y avait 3 tomes, c'était pas écrit sous forme de 3 tomes mais l'histoire complète était écrite, elle était dialoguée, il y avait un pitch, il y avait à peu près un chara-design de tout, il y avait je crois qu'on avait fait 6 planches, donc on essayait vraiment de faire un dossier très très complet, et le machin devait faire je sais pas 50 pages quoi.
Ah ouais.
Et en fait on a trouvé un auteur qui s'appelle Stéphane de Canva qui vient de sortir Les Brigades Chimériques là. Il a trouvé notre taf cool juste sur les réseaux sociaux comme ça. Et du coup, il nous a filé l'adresse de David Chauvel, qui était notre éditeur chez Delcourt. Et David, il a lu le machin genre en une nuit, en une journée, et il nous a dit, bah vas-y, go. Et puis, on a signé comme ça.
Avec quel âge, hein?
Stylé.
Et là, j'avais 27. Voilà.
T'arrêtes tout, tu dis ça y est, c'est bon. Ça.
Et là, ouais, j'en parle à David, je lui dis, bon, bah voilà, combien on sera payé, machin, etc. J'essaie d'avoir à peu près le même salaire que ce que je touchais à l'époque. Il me dit, bah voilà, il va falloir se faire 6 planches par mois. Donc, je fais un test, je fais 6 planches par mois, je trouve le bon modèle, et puis let's go. Au début, c'est dur, je suis hyper serré dans le timing.
6 planches par mois, c'est beaucoup?
Je sais pas, ça dépend des gens, quoi. Ça dépend du style, en fait.
Ils faisaient une planche par jour, mais.
Ça dépend du style.
Ouais.
Ça dépend vraiment de ce que tu fais, quoi. Mais là, c'était quand même assez un style assez réaliste avec des refs historiques, etc. Donc, fallait faire pas mal de recherches. Et puis, il y avait beaucoup de taf en couleur, beaucoup de travail de volume et tout. C'est encore mon rythme actuel sur Talion. Je fais 6 planches par mois. Sauf que je mets 3 semaines à les faire, alors qu'avant, j'en mettais 4 ou 5, quoi. Et que je travaille un petit peu moins dans la journée. J'ai un peu plus de temps et j'ai le temps de faire d'autres projets, quoi. Mais non, 6 planches par mois. En général, tu vois, on met un an pour faire un album de franco-belge. Donc, c'est à peu près ça, quoi. 6 ouais. planches par mois, tu mets 10 mois. Ben là, c'est un 60 pages en plus. En général, un album, c'est ou 40 et quelques ou 50 et quelques. Je me rappelle pas, genre 43 ou 52, je sais plus. Donc non, c'était un bon rythme, quoi, mais il fallait le tenir. Et puis voilà, donc on signe comme ça. Puis après, c'est lancé.
C'est quoi ton émotion à ce moment-là?
Je sais pas trop, parce que moi, tout le monde me dit que je suis toujours un petit peu insatisfait, tu vois. Donc je suis genre pragmatique, genre vas-y, combien je vais gagner, nanani, quand est-ce que je commence à travailler, à quelle date, machin, enfin voilà, tu vois, et puis on sera content quand la BD elle sortira, et puis quand la BD sort, ok bon maintenant faut que je fasse le tome 2, tu vois, okay. Là, je suis un peu comme ça.
Est-ce que t'étais content quand même de quitter
la
découpe, la PAO?
Ouais, carrément. Bah parce que c'est un métier vraiment épuisant, quoi, tu vois, même pour le corps et tout, je me disais c'est pas possible, je vais pas faire ça toute ma vie. Bah j'ai mon meilleur pote qui continue à faire ça, hein, donc... respect, mais c'est quand même vraiment épuisant. Après, en fait, j'ai découvert que le dessin c'était épuisant pour d'autres raisons.
J'imagine, ouais.
C'est-à-dire que quand t'as un taf salarié, bah tu rentres chez toi, t'as fini ta journée, t'es plus au travail, quoi. Alors que quand tu dessines, bah en fait, t'es toujours au taf, jamais. Quoi, ça s'arrête jamais. Avant, j'avais plus des problèmes physiques, des douleurs, etc. Aujourd'hui, j'ai plus de douleurs, mais genre je stresse, je m'alimentais mal, je sortais pas, enfin voilà, quoi.
Tu processes tout le temps tes idées, tes
ouais,
tes
c'est
dessins,
ça,
t'es tes
toujours
histoires.
Un peu...
Est-ce que t'as eu le syndrome Philippe Valette? Non, on parle à chaque fois.
Non, je sais pas ce que c'est.
C'est
un des premiers podcasts qu'on ait fait. C'est le deuxième d'ailleurs avec Philippe Valette, qui nous racontait que pendant qu'il dessinait Jean Doux et le mystère de la disquette molle, il disait bah au plein milieu, il a dit j'en peux plus, je supporte plus, je vais jamais y arriver, je vais rendre mon avance, c'est trop dur.
Ouais.
Je me suis engagé dans un truc qui me dépasse.
Non, fallait manger, quoi. Non, j'avais pas le choix, en fait.
Mais t'as jamais eu ce doute de dire, merde, mais est-ce que je me suis pas un peu trop emballé?
Non, j'ai toujours le doute, toujours le stress de est-ce que ce que je fais c'est bien, et je suis très insatisfait de mon travail, mais j'apprends à vivre avec, quoi. Je te dis, je fais une planche, et puis je suis content une semaine, et puis après j'ai envie de la refaire, mais je peux pas la refaire, quoi, j'ai pas le temps. Donc je suis dans un esprit de je fais, puis je ferai mieux la prochaine fois, et j'avance comme ça. Et puis après, bah, j'étais salarié, j'avais déjà acheté un appart, j'étais déjà installé.
Un appart que tu revends, hein, on le rappelle.
Oui, contactez-moi. et voilà, donc en fait, j'avais pas le choix, fallait que je tombe mon salaire tous les mois, et pour ça, bah, fallait que je fasse 6 planches par mois, et puis c'est tout. Et je facturais tous les mois à la même date pour avoir ma paye, tu vois. J'ai gardé une espèce de rythme de salarié, même encore aujourd'hui, je suis...
Et pourquoi ce rythme de 6 planches par mois? Il y a une raison, parce que c'est la première fois que j'entends parler de
c'est
ça.
C'est le truc pour arriver au salaire que j'avais à peu près quand je...
T'étais payé à la planche?
Non, mais après ça dépend. En général, ouais, quand tu signes, t'as un espèce de forfait à la planche. Mais en vrai, c'est un détail de ton enveloppe. C'est un découpage de ton enveloppe par le nombre de pages que t'as dans ton album. Il y a un budget total pour faire un album, mais c'est vrai qu'en général, on parle de temps par planche, quoi. Et donc, je sais pas, à l'époque, sur les Métamorphoses, je devais être à 350 € la planche en couleur. Donc, il fallait que j'en fasse 6 pour avoir le même salaire que ce que j'avais avant. Voilà. Et donc j'ai gardé ce rythme tout le temps, quoi.
Comment ça se passe avec l'éditeur? T'envoies les planches, il y a pas de modif, il y a pas de...
Bah ça dépend. Non, après t'as le storyboard, donc tout se fait au storyboard. Moi dès le départ je faisais un storyboard en couleur assez détaillé. Du coup tous les retours ils étaient là. Et après je crois que j'ai vraiment eu de la chance au niveau des éditeurs. J'en ai eu que deux, mais à chaque fois ça s'est vraiment bien passé. Et David c'était quelqu'un, enfin ça l'est toujours parce que je continue à travailler avec lui, mais qui est très exigeant, assez dur, mais au moment du storyboard, au moment de l'écriture et au moment du storyboard. Et après, quand tu fais tes planches, bah s'il y a des trucs qui sont loupés, il te le dit un peu, genre là, fais gaffe, tes yeux ils sont pas alignés, machin, t'as des problèmes de dessin, faut que tu fasses un petit peu mieux. Ou il essaie de te canaliser, genre parce que quand t'es nouveau, en fait, ton style, des fois naturellement, il prend une orientation que tu contrôles pas. suivant ce que t'es en train de lire, suivant ce que t'as consommé pendant l'année, suivant, enfin voilà. Donc il t'oriente, il fait vraiment le directeur artistique, quoi. Il te dit, bah là tu prends un style moins réaliste, donc fais attention, ou tu t'orientes vers l'anatomique et du coup, bah faut que tu rebosses un peu. Ou alors tu changes de style, mais ce sera pour une autre BD, parce que t'as commencé comme ça, il faut que tu finisses comme ça.
T'avais tendance à t'éloigner de ton style?
Je pense que non, c'est juste sur le tome 1 des Métamorphoses, j'étais pas assez formé à l'anatomie, tu vois. J'étais vraiment, je travaillais juste avec mon côté autodidacte et les retours de Tony, qui étaient quand même plus des retours sur la narration et sur l'écriture que sur le dessin pur, qui est un truc qui est toujours un peu difficile à juger, quoi. Parce que à partir d'un moment, en dessin, t'arrives forcément à dessiner un corps qui se ressemble, enfin, tu vois, à avoir un dessin qui est éditable, ça se fait, mais par contre, la narration, c'est quand même le truc le plus compliqué à gérer. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, je me cherchais, en fait, je savais pas trop comment m'orienter parce que je manquais de base. Et donc après, à partir du milieu du tome 2 des Métamorphoses, je crois, j'ai rencontré un autre auteur qui a été super important, qui s'appelle Bastien Sanchez, et qui a fait une BD qui s'appelle En Falche, chez Delcourt. Et en fait, Bastien, je l'ai rencontré alors qu'En Falche n'était pas sorti sur Angoulême, parce qu'En Falche, c'était édité par David. Et lui, il a un dessin très, très rigoureux et vraiment très académique, quoi. Il est assez fort et pointu. Et du coup, bah, il a commencé à m'expliquer, bah non, mais en fait, là, le soir, au lieu d'aller te coucher, faut que tu dessines des crânes et que tu apprennes à regarder comment ça fonctionne un corps et comment ça bouge. Et voilà. Et là, j'ai commencé et je continue encore aujourd'hui à vraiment avoir une espèce d'exigence aussi dans l'anatomie, dans le mouvement des corps, etc. La même exigence que celle que j'avais pour les décors.
Tu continues à faire tes petits exercices le soir de dessiner des...
Non, je le fais pas forcément le soir, mais ça m'arrive d'avoir des phases dès que j'ai le temps de... Mais après, des fois même, je le fais sur les planches ou au moment du storyboard. À l'époque, quand je faisais les Métamorphoses, je te disais, genre, fallait que je fasse mon storyboard, donc je le faisais souvent en même temps que je faisais l'album, tu vois, genre, je faisais 10 planches d'avance. Et puis après, je faisais mes 10 planches, et puis après, j'en avais plus, donc fallait que je refasse des planches d'avance de storyboard, et en même temps traiter les retours de l'éditeur pour corriger, et puis en même temps faire les planches, et du coup, j'étais toujours à flux tendu à fond. Et aujourd'hui, mon dessin a vachement évolué, et j'arrive à faire un storyboard qui est proche du crayonné, et du coup, à ancrer directement dessus. Et ça, c'est grâce au fait que, bah, en fait, j'essaie de rebosser les bases, de rebosser le dessin académique, etc., à comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà. Aujourd'hui, je dessine plus vite grâce à ça. Merci, Bastien.
Merci, Bastien.
Bravo, Bastien.
Et quand tu sors ta première BD, t'as envie de faire partie d'une espèce de famille de la bande dessinée, ou tu veux juste avoir ton métier de dessinateur de bande dessinée?
Je sais pas trop. Le côté famille de bande dessinée, être reconnu par ses pairs et tout, peut-être encore aujourd'hui.
Franchement, tu parlais de ton premier Angoulême, c'est des choses qui comptaient, ça?
Ouais, ça c'était cool quand même, j'en ai un bon souvenir. Mais je sais pas trop où me situer là-dedans, j'ai pas trop un côté... j'ai pas forcément envie de faire partie d'un univers d'auteur. Après, la bande dessinée, ça reste un milieu où bah, on est tous auteurs de bande dessinée, quoi. On se prend pas trop la tête, c'est quand même rare de rencontrer des gros égos. Donc en général, bah, tu rencontres des potes et puis c'est cool, tu passes la soirée, tu bois des coups, y a pas trop de prise de tête, donc bah, tu te sens vite appartenir à la famille de la bande dessinée et ça se passe bien, quoi. Donc non, je crois que j'ai quand même un délire ambitieux, quoi, où j'ai envie de faire une bonne BD et qu'elle soit lue, quoi. Mais le côté famille de la BD, pas forcément.
Bah ok. Voilà. Et ta troisième BD, elle intervient quand alors?
Ouais, du coup la troisième BD, c'est pour parler d'un truc beaucoup plus récent, mais c'est plutôt de Naoki Urasawa, parce que je pense que c'est un auteur que j'ai découvert avec Monster en animé, quand c'était diffusé sur Canal. C'était il y a quelques années quand même. Et là, je l'ai redécouvert il y a pas longtemps en re-rentrant dedans, en lisant 20th Century Boys et en enchaînant sur Pluto. Et Pluto, donc, c'est une série en 8 tomes où, donc, en gros, c'est une lettre d'amour à Tezuka et à Astro Boy. Et donc, il va reprendre un petit peu d'Astro Boy tout en créant une espèce de polar autour de toute la mythologie d'Astro Boy et à travailler sur le concept d'intelligence artificielle et des émotions. Et franchement, c'est juste, ça m'a mis une claque monumentale, quoi. Et aussi, c'est parce que je reviens au manga quand même tout le temps, quoi, tu vois. J'y repense, mais... mais
sur la narration notamment ou...
Ouais, sur la narration beaucoup, sur la fluidité de la narration, sur... Et encore que, en plus, sur Urasawa, c'est pas forcément le meilleur exemple, parce que il a une écriture quand même qui est très cadrée, quoi, qui est pas rigide, mais qui est très cadrée, très réaliste. Mais je crois qu'aussi, c'est au niveau de l'écriture, en fait, ça m'a mis une claque, tu sais, c'est pour te redonner envie d'écrire et te dire, ah ouais, putain, il y a toujours mieux... Et puis aussi, c'est parce qu'en fait, c'est un peu une rareté pour moi d'être surpris en bande dessinée. Et c'est pas du tout parce que parce que moi je kiffe ce que je fais et que du coup j'ai du mal à trouver des émotions ailleurs, quoi. C'est même moi dans mon propre travail, j'ai du mal à savoir si vraiment j'arrive à transmettre des émotions ou pas. Je trouve que la bande dessinée, c'est vraiment exigeant pour transmettre des émotions, tu vois. Et ça m'arrive vraiment rarement. Et du coup, je pense que là, c'est une de mes dernières, vraiment une de mes dernières claques, quoi, où tu te retrouves vraiment à ressentir quelque chose face à une bande dessinée. Parce que sinon, je lis plein de bandes dessinées que j'aime beaucoup, quoi, mais j'ai pas vraiment de moment où, tu vois, je sais pas, je vais me mettre à chialer ou je vais me mettre à... Enfin voilà, c'est vraiment très très rare. Ou même à rire à haute voix, quoi. Je crois que la seule fois où j'ai ri à haute voix en bande dessinée, c'était avec Zai 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 Zai, je crois.
Il est fort.
Et ouais, de ouf. La Renault, là. ça, on boucle dans ma tête. Ça.
L'absurde de Fab Caro est quand même assez...
Donc voilà. Et puis toujours, ouais, parce que le manga et parce que aussi c'est l'orientation vers une autre bande dessinée que je recherche. Et parce que ça, tu sais, ça en dit beaucoup du chemin que prend la bande dessinée aujourd'hui et essayer de s'orienter vers une nouvelle forme d'écriture, plus de pages, de jamais rester coincé dans un modèle, quoi, tu vois. Parce que moi, je suis rentré dans la bande dessinée, enfin, dans la bande dessinée franco-belge traditionnelle en grand format parce que ça s'imposait un peu à moi, quoi. Mais bon.
Le roman graphique, c'est ça?
Ouais, je m'y retrouve pas forcément. Bah, le roman graphique, quoi, ou peu importe le nom qu'on y donne, quoi, de la BD avec plein de pages, quoi. Mais parce que j'aime bien les séries quand même, tu vois, j'aimerais bien continuer à en lire, mais...
Et les écoles, justement, aussi un peu américaines, qui peuvent se rapprocher des fois des seinen un peu longs, je sais pas, les Charles Burns, les trucs comme ça, ça t'a intéressé ou...
Tu veux dire du comics en général? Parce que là,
ouais,
je connais pas, mais...
plus de la BD indépendante américaine, tu sais, avec plein de pages, comme tu dis, là.
Ouais, ouais, carrément, les trucs j'en lis de temps en temps, même des one-shots en BD, ou même des séries, d'ailleurs, avec beaucoup de pages, genre, je pense à Sweet Tooth, comme ça, de Lemire, ou... Même après, j'ai lu quand même aussi pas mal de comics, quoi. Même des grosses séries, hein. Moi, j'ai adoré le taf de Kirkman, j'ai adoré Walking Dead, j'ai adoré Invincible. Donc, j'adore la série en bande dessinée, mais là, on a déjà des beaucoup plus grosses paginations. Et puis, le format américain est vraiment différent, parce que c'est publié différemment, et le rythme est pas le même, ils travaillent à plusieurs mains, et du coup, bah, ils arrivent à imposer la série. Même les modèles économiques sont pas les mêmes, ils gagnent de l'argent différemment, donc c'est compliqué, puis ça on a du mal à l'insérer en France, mais...
T'es frustré par le format BD franco-belge?
Ouais, un petit peu quand même.
Tu vois, c'est quoi, tu parles du format papier vraiment, carte?
Non, non, c'est pas le format en soi, la BD est belle, quoi, tu vois, genre l'objet est cool, mais c'est juste que 60 pages pour raconter une histoire, c'est vraiment short, quoi.
Ah, tu voudrais en mettre 100 de plus?
Bah... Ouais, ou en tout cas, pas forcément frustrer le lecteur au bout de 60 pages à lui couper son histoire, quoi. C'est un peu compliqué.
Mais je suis d'accord avec toi, il y a un côté un peu... Ça se lit assez vite quand même, une bande dessinée en plus.
Bah ouais, carrément. Et en fait, je voudrais pas forcément avoir plus de pages pour allonger mon récit. Mais par contre, le grand format, après, il apporte plein de contraintes qui sont hyper formatrices, le grand format. Parce que t'es obligé de raconter beaucoup avec peu de place, quoi. T'es vraiment très resserré. Mais par contre, t'as une frustration de variation narrative, quoi. Si tu veux vraiment raconter une scène très contemplative, en fait, t'as une planche pour le faire, max, quoi. Là, je pense à une planche de Talion où, je sais pas, il y a un perso qui avance dans un rêve, comme ça. En fait, j'ai qu'une planche pour faire ça. Si je commence à en utiliser deux, c'est énormément de temps perdu pour finalement pas, on va dire, pour pas raconter grand-chose, quoi. Ça, c'est un peu frustrant. Ou même moi, tu vois, j'adore le shonen, donc j'ai toujours envie de mettre de la baston dans mes BD. Bah, j'aimerais bien m'éclater à faire vraiment de la recherche de dessin pur et de mise en scène pure, quoi, tu vois, ou commencer à placer la caméra à des endroits complètement farfelus et tout, etc. Mais en fait, t'as très peu d'espace pour ça, quoi. Même dans Talion, je me suis permis de mettre la caméra sur une cheville qui tourne, tu vois, mais t'as vraiment pas de place, quoi, pour le faire. Et donc, tout ça, c'est un petit peu frustrant et ça te bloque dans l'idée d'essayer de faire un peu du franco-belge différent, quoi, de te dire... Alors il y en a qui y arrivent, hein, mais enfin genre il faut flinguer Ramirez, c'est du grand format, ça fait je sais pas combien de pages, genre presque 200. Et la narration est complètement folle, voilà, mais je sais pas les moyens qu'il a eu ou combien de pâtes il a mangé, quoi, je sais pas, faudrait lui demander. Mais
tu penses que c'est à perte?
Non, carrément pas, non, mais je pense que c'est quelqu'un qui avait un dessin aussi complètement ouf et qu'on lui a fait confiance et qu'on lui a donné peut-être les moyens de le faire, mais... Et quand t'es jeune auteur, bah, c'est compliqué d'avoir cette place, en fait. Donc tu fais ta place au fur et à mesure. Mais ça demande un peu des sacrifices. C'est ce dont on parlait tout à l'heure sur le dessin qui s'allège, etc. Bah, en gros, aujourd'hui, je vais essayer de faire des bouquins avec une plus grosse pagination. Mais pour ça, il va falloir que je passe de 6 planches par mois à 6 planches par semaine.
Ça, c'est ton objectif?
Bah, c'est signé déjà, quoi. J'ai un projet où vraiment j'ai fait un test et je fais ça. Donc, ça implique de faire un storyboard hyper détaillé. Enfin, qu'il soit vraiment très très proche du crayonné et d'ancrer mes persos directement, d'avoir un style un peu plus sketchy, un peu moins de détails et une couleur hyper basique, quoi.
C'est toi qui fais la couleur?
Ouais, et j'écris aussi. Mais ça, c'est déjà écrit, quoi. C'est juste, c'est pas dialogué, je dialogue quand je fais les storyboards. Mais par contre, ça implique que je fasse ce storyboard pendant 2 ans, pendant que je finis Talion. pour pouvoir après m'attaquer pendant un an à la prod de 200 pages en un an, quoi.
T'as lu, t'as prévu quoi, 3 tomes, c'est ça?
Ouais, je suis en train de finir le deuxième, là.
Ils sont écrits, ils sont prêts?
Ouais, les 3 tomes, ils sont écrits. Dès que j'ai commencé le premier, j'ai écrit les 3. Il y avait déjà des notes d'intention de toute la suite. Et puis là, je suis en train de finir le deuxième et... Le troisième, il continuera dans la foulée. Il y aura moins d'un an et demi, je pense, entre le premier et le troisième.
Ah, c'est bien, c'est un beau rythme.
Ouais, mais tu sais, ça s'appelle mettre au frigo. Genre, en gros, on sort le premier quand le deux est déjà vraiment bien entamé, quoi.
Pas mal, j'aime bien.
Ouais.
Et comment ça se passe alors, Talion? Raconte-nous un peu la genèse du projet.
Il y avait déjà du proto Talion dans mes tout premiers projets, quoi. Ça parlait d'écologie. Je sais pas non plus pourquoi. C'est un peu comme la BD, tu sais, c'est une obsession, quoi.
Ah ouais?
Genre, j'étais pas forcément conscientisé à l'écologie ou quoi que ce soit.
C'est vrai que t'apprécies nos éco-cups.
Nickel, c'est magnifique. Et du coup, je sais pas vraiment pourquoi, quoi. J'ai commencé à bosser sur l'écologie et puis après, je me suis dit, bah, vas-y, faut continuer. Mais même mes premiers scénarios, en vrai, je me renseignais pas tant que ça, quoi. Tu vois, c'était un peu vite fait, la nature, elle est gentille, faut la protéger, quoi.
Mais c'est vrai en même temps.
C'est une vérité.
Oui, enfin, gentille, je sais pas. Mais
elle est dure.
Elle peut être dangereuse, mais elle est gentille au fond.
Tu parles des orties, c'est ça?
Ouais, les orties, c'est vénère. On devrait tous les couper et les brûler.
C'est un truc qui sert à rien, vraiment. Ça fait des cloques, on sait pas pourquoi. Bon.
Très bonne soupe, hein, au passage. Bref.
Je sais pas. J'ai pas d'avis.
J'ai pas d'avis sur la soupe d'orties. Non. Mais c'était là, pour le coup, l'écologie, ouais, c'était un sujet.
C'était là, et du coup, je l'ai gardé. Et en fait, quand j'ai commencé, quand on travaillait sur les métamorphoses, j'ai commencé à écrire la suite des métamorphoses. Les métamorphoses n'ont pas assez marché pour qu'il y ait une suite. Mais c'est le moment où on m'a un peu validé, entre guillemets, en tant que scénariste. Genre, j'ai montré mon scénar de la suite des métamorphoses à mon éditeur, et il m'a dit, c'est complètement éditable, c'est très cool, c'est juste, on n'en a pas vendu assez pour faire une suite.
Donc, je me suis frustré à ce moment-là ou pas?
Ouais, ça va être dur,
ouais,
ça.
Ouais, de ouf. De ouf. C'est la première claque, genre grosse déception où tu rebondis, où tu fais rien, quoi.
Tu le sentais venir, ce semi-échec?
Bah oui et non, parce qu'en fait, j'avais commencé à écrire la suite avant la sortie du premier, je crois. Et du coup, bah en fait, tu la prends vite, quoi. Enfin, tu la prends 3 semaines, quoi. On te dit, bah non, ça se vendra pas assez, c'est mort.
Donc, ah ouais, ouais. Enfin, c'est éminent, quoi.
Et t'as quand même bossé vraiment, genre, tous les soirs et beaucoup de temps et très très tôt le matin pour arriver à écrire ton truc en même temps que tu fais tes pages. Parce que, en général, quand je suis en phase d'écriture, vraiment, je me lève très tôt, quoi, pour trouver du temps pour écrire. Donc du coup, bah, je commence à reprendre ces projets d'ado, là, et à me dire, bon, bah je vais essayer d'en faire quelque chose, quoi. Et donc, je commence à écrire Talion, et je commence à le bosser avec mon éditeur de l'époque. Il fait un peu script docteur dessus, il me fait quelques retours. On fait genre 3 versions. Et puis, au bout d'un moment, il me dit que ça lui correspond pas forcément, quoi. Il a un peu l'honnêteté de me dire que il veut continuer à travailler avec moi, mais que c'est pas son style et que du coup, il veut pas se forcer. Mais il me trouve, il me cherche un éditeur, quoi, en gros. Voilà, l'entre-soi à fond. Mais il me trouve une porte d'entrée chez Glénat. Et donc, je signe Talion chez Glénat comme ça. Let's go. Et ça se goupille en fait exactement comme les métamorphoses, quoi. C'est-à-dire c'était une trilogie comme ce que j'avais déjà fait, tu vois, pour me remettre un petit peu dans les pieds de bon, pour l'instant t'as pas énormément vendu, donc on va te faire faire la même chose que ce que tu sais déjà faire et voir si tu peux faire mieux, quoi. C'était un peu frustrant aussi parce que pour moi Talion c'était un gros truc, mais finalement ça a amené des contraintes cool aussi et du coup je suis quand même assez content de...
C'est quoi les contraintes cool?
Bah tu vois, d'arriver à raconter différemment en fait. Pas forcément raconter que par les dialogues ou que par l'action. Raconter par la narration environnementale, par tu vois, genre les espèces de textes que j'ai mis en interchapitre ou même glisser dans les dialogues des pistes de compréhension de l'univers sans forcément l'expliquer et trouver une narration qui me plaisait avec du flou, avec de l'espace pour le lecteur. Et je crois que j'ai vraiment trouvé mon style là-dedans, ou en tout cas un début de style, quoi. Dans cette façon d'écrire où je suis un peu obscur, quoi, etc. Et un truc que j'aime beaucoup. Et je pense que ça vient de la contrainte de pas avoir eu beaucoup de place, quoi. Parce que sinon, j'aurais tapé des flashbacks de voilà ce qui se passait il y a 2000 ans dans cet univers. Et en fait, je pouvais pas le faire. Donc du coup, tu glisses 2-3 phrases. C'était comme il y a 2000 ans, nanana, tu vois. donc ça a amené ça. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool.
Et ça fait presque 3 semaines qu'il est sorti.
Ouais, c'est ça, je sais pas.
Il y aura un tome 2 ou pas, Camille?
Ah oui, de toute façon il est signé. Hein, donc,
allez, là, c'est la bonne nouvelle, ça.
S'ils l'ont payé, ils vont le sortir. En général, ça se fait plus trop, ça, maintenant, quand même. Il y a un peu un trauma de l'édition, parce qu'il y a eu quelques mauvais choix éditoriaux de couper des séries en plein milieu et tout. Mais bon, en plus, quand tu mets une série au frigo, bah évidemment, tu commences le tome 2 quand le tome 1 est pas sorti, donc tu le signes. Mmh. Et le tome 2 sera pas sorti, que je signerai le 3. Tu vois, donc...
Tu les as bien ken.
Ouais, ça marche bien. Après, tu peux pas négocier. Tu peux pas négocier, c'est pas sorti.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois, tu peux pas renégocier ton contrat. Mais voilà.
Et non, bah alors, c'est une très belle bande dessinée. Et tu parlais de ton insatisfaction sur le travail effectué. Quand tu relis à Talion, tu trouves ça à chier?
Non, ça va. Je suis quand même un peu fier de Talion, mais même les métamorphoses, je suis fier en vrai. Il y a des trucs où, quand je les regarde, je me dis c'est aberrant, quoi. Mais il y a des trucs dont je suis fier aussi, quoi. Il y a des planches que je kiffe. Les métamorphoses, c'était vraiment un espèce de truc où je me suis dit, vas-y, faut que je mette tout. Tout ce que je sais faire, faut que je le fasse. Et toutes les expérimentations possibles, faut que je les fasse. Et après, je me suis calmé, quoi. Je me suis dit, bon, allez, on va essayer de raconter correctement aussi, ça pourrait être pas mal. Et du coup, sur Talion, non, ça va, je suis content. Mais évidemment, il y a des trucs que j'aime pas et des trucs que je pourrais refaire différemment. Il y a des planches que j'aime beaucoup, il y en a d'autres que j'aime beaucoup moins. Et puis surtout, il y a toujours le doute, en fait, de savoir si ce que j'ai fait, c'est bien ou pas. Et puis, tu sais, t'as aucun recul sur ce que tu fais. J'ai aucune idée de ce que c'est, en fait, Talion, tu vois. Je l'ai jamais lu normalement, en fait, quoi.
Les rêves dont tu parlais, qu'on te prêtait et que t'as jamais lu, tu vas les lire, tu penses? Les Linkal.
Ouais, peut-être. Mais tu sais, ça, c'est un peu comme les trucs que tous tes potes te disent de lire tout le temps. Et du coup, ils te le disent tellement que t'as pas du
tout
envie.
Flemme. Tu vas lire tout le reste avant ça.
Ouais, c'est ça. Tu liras tout ce que tu peux trouver d'autre, mais pas ça. Tu vois. C'est un peu les trucs de forceur qui te dégoûtent. Mais ouais, peut-être. De toute façon, il n'y a pas de porte fermée. Mais après, j'ai lu plein de gros classiques. C'est juste que là, je sais pas, j'arrive pas trop à rentrer dedans, quoi. Peut-être qu'il faudrait que je rentre un petit peu plus dans le franco-belge. Après, j'ai des pépites dans le franco-belge que j'adore, hein, Universal War One, voilà.
La liste est longue.
Il y en a sûrement plein d'autres, mais non, mais vraiment, c'est sûr. J'en ai quand même beaucoup, mais dans la bande dessinée de genre, je suis pas si sûr que ça, quoi. Des trucs qui me ressemblent vraiment, je suis pas si sûr que ça. Mais voilà, c'est pas grave. La BD, de toute façon, pour moi, là, on catégorise, mais ça reste de la BD, quoi, tu vois. Ouais. Peu importe le format, le genre, la taille du bouquin, le nombre de pages. Si ça arrive à m'émouvoir, c'est cool, quoi, c'est tout.
Il y a un truc que t'as dit tout à l'heure qui m'a intéressé, c'est que tu disais, quand tu te mets en phase d'écriture, tu te lèves tôt et genre, tu mets un process en place, en fait.
Ouais.
Comment ça se passe?
Bah, c'est juste que je suis un peu... je pense que c'est le fait que j'ai bossé beaucoup comme salarié avant. J'essaie d'avoir vraiment des règles de vie assez fixes. Puis j'ai une petite fille aujourd'hui, donc j'essaie de...
Félicitations.
Merci. J'essaie de, tu vois, d'être disponible le soir. Je travaille jamais, enfin très rarement le soir. En ce moment, avec les périodes de promo, par exemple, je tape des grosses journées où je vais travailler le soir. Mais c'est vraiment très rare. Mon cerveau, il est à 2 à l'heure, quoi. Je produis beaucoup plus en une heure, entre 5h et 6h que...
Ah, on parle de 5h du mat'?
Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est tôt.
Que entre, je sais pas, genre entre 20 et 23h, quoi. Donc, j'essaie toujours de plutôt me lever le matin si j'ai du taf. Et sinon, je vais taper des journées entre... en général, je me lève entre 6h et 7h. Et puis... après, je bosse jusqu'à 19h, quoi, un truc comme ça. Du lundi au samedi. Voilà.
Gros taf, quand même.
J'essaie toujours de garder ce rythme et après, il fluctue. Moi, maintenant, ce qui est cool, c'est que je vais quand même plus vite. Donc, je peux me permettre d'aller au sport 3 fois par semaine, d'être un peu plus flexible, d'avoir des imprévus.
Donc, les genoux, ça va?
Ouais, les genoux, ça va. Bon. Ça y est, ça commence à revenir.
Ok. Mais en fait, ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est genre, tu vois, l'écriture. Parce qu'autant le dessin, je capte. Tu peux mettre des heures de dessin. Enfin, tu sais déjà ce que tu vas faire. T'as déjà ton storyboard et tout. Mais quand tu te lèves à 5h du mat et que tu te dis, bah tiens, aujourd'hui, je vais écrire tant de pages. Si genre, il n'y a rien qui te vient entre 5h et 6h du mat, par exemple. Comment tu mets ça en place?
Le truc, c'est qu'en vrai, il n'y a jamais vraiment rien qui vient, tu vois. C'est un peu le truc du mythe de la page blanche.
Ouais. Il n'y en a pas pour toi. Ça n'existe pas.
Moi, c'est un truc qui ne m'arrive pas trop, quoi.
Ouais.
Je pense que ça peut m'arriver de ne pas avoir d'idée, mais en fait, je vais faire autre chose à la place. Mais c'est un truc, en fait, quand tu commences à écrire, et si t'es un peu, genre, si tu te renseignes un petit peu sur des méthodes d'écriture et des méthodes scénaristiques, tu retrouves un petit peu ce que tu trouves dans le dessin. Le fait de d'abord faire un crayonné, de faire monter doucement ton écriture, de faire monter doucement ton dessin, ça ressemble beaucoup. Il y a des phases aussi dans le dessin où tu vas t'acharner, quoi. Genre, et on le fait tous. C'est-à-dire que on va passer 4 heures sur une case, alors qu'on aurait normalement mis une demi-heure à la faire. Et on sait en plus que à ce moment-là, si on s'arrête à une demi-heure et qu'on attend le lendemain, on y arrivera en une demi-heure. Mais non, on va s'acharner comme des cons pendant 4 heures.
et on le fait quand même.
Et c'est comme ça qu'on apprend. Et en fait, à l'écriture, c'est un peu pareil. Tu le retrouves facilement. T'arrives et puis t'écris, quoi. Et puis au début, t'écris un truc très grossier. Et en fait, ça ressemble beaucoup au fait de storyboarder. Tu vois, quand je storyboard, d'abord, je trace mes cases vraiment de manière dégueulasse. Il y a que moi qui peux comprendre ce qui se passe, quoi. Et l'écriture, c'est un peu pareil. J'écris par scène et j'écris genre une phrase, deux phrases, grand max par scène. Et il y a que moi qui peux les comprendre. C'est même pas des phrases. Il y a pas de pronom, il y a rien, quoi. Des fois, il y a même pas de verbe. C'est vraiment, tu vois, juste des mots jetés. Mais moi, je sais ce que ça veut dire. Et après, du coup, cette scène, si je veux la mettre ailleurs, j'ai juste à la copier-coller vite fait, tu vois. C'est pas compliqué de faire des insertions, de bouger le texte et tout, etc. Et une fois que j'ai ce truc un peu sale, là, je commence à le détailler et à le structurer. Et ça, déjà, je peux déjà le montrer à un éditeur. Ou en tout cas, le pitcher à l'oral, quoi. et voir si ça passe. Et puis après, je vais faire un vrai traitement, un vrai truc qui soit lisible par un éditeur et sur lequel on va pouvoir travailler. Et après, je dialogue en même temps que je dessine. Donc du coup, voilà. Et du coup, j'ai tout le process qui ressemble un petit peu à du dessin. Et bon, après, j'ai pas écrit 10 000 scénarios non plus. Hein. Ça se trouve, j'aurai la page blanche bientôt, mais...
Probablement. Mais... Un peu du tout.
Mais pour l'instant, ça marche comme méthode.
Et tu préfères écrire ou dessiner?
Je sais pas. Franchement, je sais pas.
Après, tu préfères écrire pour un dessinateur ou dessiner pour un auteur?
Ah, ça, par contre, je pense que je préférerais écrire pour un dessinateur que maintenant retourner à dessiner pour un scénariste. Enfin, disons qu'il faudrait que je sois scénariste d'une manière ou d'une autre. Même si je fais partie d'un groupe, il faudrait que je sois engagé quand même dans le scénario. Et j'ai fait un album d'une série concept chez Soleil, entre Les Métamorphoses et Talion, un album de la série Android chez Soleil. Et je bossais avec un scénariste avec lequel j'ai eu très très peu de dialogue, quoi. On a vraiment échangé quelques mails, on a dû se parler 10 minutes au téléphone une fois, quoi, en 10 mois de prod. Et franchement, j'ai trouvé ça super triste, quoi, tu vois. Alors je pense que tu peux trouver des super collaborations, hein, entre scénariste et dessinateur, mais surtout le fait de travailler sur un vrai scénario de bande dessinée, découpé, case par case, planche par planche, j'ai vraiment pas du tout aimé ça, quoi. J'ai trouvé un manque de liberté énorme là-dedans. Et du coup, pour l'instant, j'avoue que j'aime bien ma méthode. Donc, j'aimerais bien travailler à plusieurs, mais il y a des conditions un peu compliquées à trouver là-dedans. Par contre, écrire pour quelqu'un qui dessinerait sur mon scénar, ça me dérangerait pas du tout. C'est un truc qui me plairait beaucoup, je pense. C'est juste une question de temps, après. C'est vraiment difficile de trouver du temps pour écrire pour quelqu'un d'autre, quoi.
En train de réfléchir au dessinateur qu'on avait reçu à Boulet, par exemple, qui était un excellent dessinateur et qui avait écrit juste Bolshoi Arena, qui est vraiment bien d'ailleurs. Très belle BD, le tome 3 qui est sorti cette semaine, je crois. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais ce côté science-fiction, là, ça me rappelle un peu ton univers.
Ouais, il y a peut-être des inspirations communes. Je sais que l'auteur, il semble très inspiré par toute l'époque Otomo, Satoshi Kon.
Ouais, début 90, ouais. Pas mal.
C'est une lettre d'amour même au genre, je pense.
Ouais.
Et dans Talion, il y a sûrement des résurgences de ça, quoi.
Est-ce qu'il y a une petite dédicace à Akira sur la moto?
Bah, tout le monde me demande ça, mais...
Ouais, franchement, j'en aurais mis ma main au feu, mais...
En fait, c'est juste, c'est une moto, quoi. Et c'est une BD.
Bah, j'en ai pas eu beaucoup, Paris, des motos comme ça.
En fait, je me suis pas du tout inspiré de la moto de Kaneda pour le design, mais je pense que la moto de Kaneda a inspiré tout ce qui m'a inspiré après, quoi. Mais moi, surtout pour la moto de Billy dans Talion, j'ai regardé la moto de Batman dans Dark Knight.
Ah ouais, c'est vrai.
Et des concepts de moto un peu, genre, tu sais, j'aime bien, moi, les délires de rétro-techno, tu sais, genre des comptes Insta de vieilles techno des années 90 ou des années 2000, tu sais, des vieux ordi et tout ça, il y en a plein dans Talion partout.
Ah ouais?
Ouais, dans le tome 2, c'est encore pire. Et du coup, je regardais plein de concepts de vieilles motos comme ça. Et puis, il y a aussi beaucoup Final Fantasy qui m'a beaucoup inspiré. FF7 et notamment Advent Children, le film qui a été fait sur la suite. Où j'ai beaucoup regardé les concepts des motos de cette époque-là. Et je pense que je voulais juste que mon perso ait une moto parce que dans FF7, il y avait une moto.
Bon, c'est une bonne raison.
Voilà. Par contre, c'est chiant à dessiner de ouf. Hein.
Alors justement, j'ai une question piège. Est-ce que tu décalques parfois?
Non, des fois je copie-colle, ouais. Genre, je fais du copier-coller de morceaux de décors, de...
Que t'as déjà dessiné?
Ouais, des trucs que j'ai déjà dessiné.
Tu vas prendre une photo que tu vas décalquer pour...
Non, je décalque pas de photos. Je réfléchis comme ça, mais non, ça m'est jamais arrivé. Après, ça m'arrive de regarder des acteurs pour les dessiner, tu vois, ou pour essayer de capter des traits. Ou par exemple, quand je vais commencer à designer mes persos, je vais m'inspirer d'un acteur pour un personnage, puis je vais essayer de changer quelques traits, et puis après, je vais voir comment son visage y bouge, quoi. Comment, quelle gueule il a quand il sourit, parce que c'est difficile d'avoir beaucoup de références de comportement plastique, tu vois, pour une seule...
Alors c'est quoi le casting de Talion?
Je crois qu'il y a du Joaquin Phoenix pour Thaddeus dans... Tu sais, un film où il est méga barbu, là, il est trop chelou.
Ah ouais, ouais, où il est vénère, il met des coups de marteau et tout, là.
C'est ça, ouais.
Ah, c'est un nom en anglais, là, Eno, je sais pas quoi, là. C'est pas ça?
Ouais, c'est ça. Mais il a pas le même nom en...
Il va suivre une petite fille et tout,
il
là. Enfin,
il a deux noms en anglais, en nom original et nom français.
Ils traduisent
en anglais, ouais. Ouais,
ça n'a aucun sens. Mais oui, il est horrible, ce film.
Beautiful Days, je crois.
C'est ça, ouais.
Billy, c'est l'actrice dont je me souviens jamais du nom. Mais elle était inspirée de l'actrice de Star Trek Discovery, la série Netflix.
D'accord.
Après, je sais pas, il y a des mix, il y a un peu de Willem Dafoe dans Sirius, il y a un peu de perso comme ça. Mais en général, j'essaie de changer quelques traits pour pas trop coller. Et puis au bout d'un moment, je me détache. Et puis de toute façon, je dessine des structures. Je dessine des structures de visage en fil de fer, quoi, où les mecs sont crâne rasé. Voilà, puis j'ai fait un petit peu de chaque côté. Puis après, je garde ça en ref et puis j'essaie de plus regarder mes références d'origine.
C'est-à-dire que t'as beaucoup de refs, tu regardes beaucoup de cinéma aussi?
Ouais,
de séries.
C'est même, je pense que je suis plus inspiré par le cinéma et le jeu vidéo d'une manière générale que la bande dessinée. J'en consomme quand même vraiment beaucoup plus, quoi.
Ouais.
Je pense aussi parce que ça coûte plus cher la bande dessinée.
Mais tu taxes, tu fais comme nous, tu demandes à Gléna de t'en envoyer.
Ouais, je l'ai déjà fait, hein.
Ouais, je m'en doute bien. Bon, Gléna, qu'on remercie d'ailleurs, et qui n'est pas du tout sponsor de cet épisode, mais qui nous a bien rincé une fois de plus.
Bah ouais, merci à eux.
Et alors, est-ce que tu kiffes être auteur de bande dessinée?
Bah ouais.
C'est à la hauteur de tes espérances, de mes rêves, de petit garçon?
Ouais, ouais, je pense. De toute façon, je pense que c'est pas un truc que j'idéalisais comme un truc génial où t'allais être blindé, et, tu vois, et boire des pina coladas et rentrer dessiner sur la plage, tu vois. Je m'imaginais pas du tout ça non plus comme un espèce de métier d'artiste où t'allais rêver et balancer ta peinture sur ta toile, tu vois, dans une verrière avec des fleurs partout. Donc je pense que c'est ça qui me plaisait aussi, c'est le côté artisanal, tu vois, genre où il faut quand même charbonner, il faut un cadre, il faut s'imposer une rigueur, et c'est rassurant, quoi. Donc je pense que c'est ça que je cherchais, et du coup ouais, c'est cool, j'aime bien. Peut-être que je ferai d'autres trucs, hein. En ce moment j'essaie un petit peu de diversifier mon taf, de faire de l'illustration, de faire d'autres choses à côté, donc on verra, parce que ça reste de la bande dessinée et ça fait pas de thunes.
Et écrire de la fiction pour séries, ciné ou jeux vidéo, c'est un truc aussi que tu te vois faire?
Ouais, carrément. En fait, j'ai pas de porte fermée particulière, ouais. Quoi. J'ai failli avoir des projets de job dans l'illustration, pas d'écriture, mais dans d'autres trucs, des trucs qui avaient rien à voir, genre l'animation, des trucs comme ça.
Ouais.
Et ça me chauffe à fond, quoi. Là, je faisais le malin sur la thune, mais c'est vraiment genre juste, j'ai envie de diversifier aussi mon taf. Et puis bon, bah, maintenant, ça y est, je suis auteur de BD, et comme je suis un peu, je crois que je suis un peu ambitieux, bah, j'ai envie de faire d'autres trucs, donc j'essaie de me fixer des nouveaux objectifs. Au début, j'étais juste dessinateur coloriste, après, je voulais devenir, il y a un peu un truc de complétion, quoi. Je suis un peu obsessionnel, je l'ai dit au début.
Ouais, mais c'est génial. C'est en tout cas, un pragmatisme épatant.
Merci, je sais pas si c'est une qualité.
Bah si, ça marche.
Bon, ce qu'on en fait, c'est toujours pareil.
Ouais, mais de toute façon, c'est un métier de charbonneur, quoi. C'est un marathon.
Ouais.
Faut pas lâcher, faut pas... C'est vraiment difficile, quoi. C'est un métier où même si tu vends pas, c'est pas grave, faut juste continuer. Si tu travailles bien et que t'es sérieux, généralement les portes se ferment pas, et puis tu continues jusqu'à ce qu'un jour peut-être t'arrives à avoir une BD qui se lit bien, quoi. Mais
y a pas des jours où tu te lèves et tu dis what the fuck,
flemme. Si, bah après c'est le problème, c'est que quand ça devient ton quotidien, c'est ton métier, et évidemment il y a des jours où t'as envie, des jours où t'as pas envie, quoi. Mais comme moi, j'ai quand même vraiment bossé à me retrouver à moins 10 degrés, les mains dans la terre, à faire des trous pour planter des poteaux, pour faire de la publicité pour des trucs qui ont aucun sens, quoi, parce que la publicité sert à rien. Tu vois, quand je me lève et que je dessine ma BD et que je vais raconter une histoire que je trouve cool, je suis quand même content, quoi. Donc ça va, je relativise. Voilà. Après, évidemment, quand on réveille, il sonne à 5h, la flemme, quoi.
Mais faut pas faire ça.
T'as pas le choix.
Ouais, ouais. Non, mais c'est une belle leçon de vie, se lever à 5h. J'avais l'impression de me lever tôt, et en fait, non, pas du tout. T'es team 5h du mat, toi?
Faut écrire, mec. Ouais. Moi, je suis team, je me couche à 5h.
Après, je dessine aussi à 5h, mais...
Ouais, c'est vrai.
Mais ce qui est cool aussi, c'est que je me lève, je fais 4 pas, j'allume la machine à café, et je travaille, tu vois.
Ouais, ça, moi,
je me lève
aussi.
Pas pour aller péter dans le métro, quoi. Voilà. Cette phrase était chelou.
Ouais, j'ai bien aimé.
En vrai, c'est vrai que tout le monde pète dans le métro.
Tout le monde pète dans le métro. On l'utilisera comme extrait pour nos stories Instagram. Voilà.
C'est parfait. Nickel. On est à 1h30. Donc, vous avez le temps encore.
Merci Johan.
Le timer.
On a le temps.
C'est
on peut continuer.
Du coup, on même plus conclure, quoi.
Ouais. On peut continuer à parler de paix dans le métro.
Oh putain, genre c'est bon, on a tout dit, on a fini pour aller péter dans le métro. Le mec, il nous
c'est
met
parfait.
Une pièce. Allez, on refait une demi-heure. Allez, hop là.
C'était une critique aux Parisiens, tu sais. Moi, je viens de Toulouse, on lâche pas des caisses dans le métro. Calmez-vous.
Bah du coup, on te souhaite quoi pour la suite alors, pour conclure?
Bah rien, que ta Lyon marche bien, et puis que les autres projets continuent, et que voilà, juste continue à faire des histoires cool, et c'est tout, y a pas de prétention supplémentaire, hein. Tout ça n'a pas beaucoup de sens.
Mais j'adore.
Ah c'est bien, moi j'aime beaucoup aussi.
On se le dit à chaque fois Aurélien, mais c'est toujours un plaisir de recevoir des auteurs.
Oui, c'est vrai. Non c'est vrai, j'aime bien à chaque fois des nouvelles visions, des façons de voir la bande dessinée ou l'art ou l'artisanat cette fois-ci, de façon différente, c'est cool. Bravo.
Bah merci.
Mais en tout cas, il y a pas une histoire qui ressemble à l'autre. C'est ouf quoi.
Une histoire de quoi?
Bah entre les auteurs, enfin c'est
il y a
pas de schéma classique quoi. Donc faut vraiment juste le seul tronc commun c'est de s'accrocher en fait.
Ouais, après on a des points communs sur le fait de douter, le fait de pas sacraliser son travail souvent aussi, de pas tu vois, il y a des similitudes. Moi quand j'écoute des interviews d'auteurs, je m'y retrouve quand même dans plein de trucs quoi, même dans des genres complètement différents quoi.
La rigueur aussi, je pense quand même. La plupart du temps, Très souvent, les gens parlent de leur rigueur, tu vois, ils sont très productifs, même si c'est des fois des dessins qui sont moins travaillés, on va dire, ils produisent énormément, tu vois. Je pense à certains, même les grands ponts, tu vois, Lewis Trondheim, où on dit, dessine plus simplement, on va dire, mais il produit tellement.
Ouais, mais c'est le gars qui a tapé un bouquin de 500 pages pour apprendre à dessiner, non, quand même.
Bah ouais, donc...
Je sais pas combien, c'est le truc...
Ouais, les carottes des Patagonies.
Ouais, voilà, ouais, je sais pas combien de pages ça fait, mais ouais, c'est laborieux, quand même, comme ça, tu vois. Ouais. Ouais. Et puis même après, de toute façon, le dessin et la bande dessinée, le beau dessin dans la bande dessinée, c'est un genre, mais c'est pas une fin, quoi. Enfin, ce qui compte, c'est bien raconter une histoire.
Tout à fait.
C'est la base, quoi. Mais ça, je crois que c'est dans tous les milieux, de toute façon. Tous les gens qui arrivent à faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, ils charbonnent, quoi. Enfin,
ouais, mais je sais pas, je pense que le côté un peu, comme tu dis, assez répétitif, du fait de tous les jours aller sur ta planche à dessin, dessiner, produire des choses régulièrement, je suis pas sûr qu'il existe dans tous les milieux artistiques, tu vois.
Mais y a pas d'équipe, quoi.
Je sais pas.
Bah, en plus, ouais, t'es seul, quand même. Enfin,
je pense que c'est l'industrie du cinéma et de la musique qui te font croire ça, mais quand t'es peintre, écrivain...
Ouais, peut-être.
C'est un peu la même chose. Enfin, après, ça dépend de ce que t'écris, mais un romancier, il va structurer son histoire, il va commencer, il a un certain temps pour faire tant de pages, il a une avance, il faut qu'il mange, enfin voilà quoi.
Mais c'est toujours fascinant de se dire que vous passez un an et demi à créer quelque chose qui va être consommé en 45 minutes.
Ouais, puis qui disparaît. Enfin voilà, quoi, tu vois. C'est ce que je te dis, dans tout ça n'a pas beaucoup de sens, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ça disparaît jamais vraiment. Tu vois, là, on parle de BD qui ont une trentaine d'années.
Non, mais tu peux avoir le couperet qui tombe au bout de trois semaines de vente.
En particulier, c'est la face visible de l'iceberg, quand même, je pense. Mais...
Quand t'as le couperet qui tombe, comme pour ta première BD, où on te dit, bon, bah, merci, mais on va pas en faire deux, quoi. C'est dur.
Ouais, on va pas faire une nouvelle trilogie, ouais. Bah oui, mais après, par contre, ça aide, ça, quand t'écris, parce que du coup, ça t'aide à moins sacraliser les idées et à accepter de jeter, à accepter de recommencer. Et ça, ça t'aide beaucoup dans l'écriture, le fait de produire du déchet, quoi, et de pas en avoir peur. Mm. Et en dessin, c'est un peu pareil, sauf que t'as moins le temps. Ouais. Parce que écrire, ça va quand même plus vite que de dessiner.
C'est sûr.
Bon bah voilà. Hein.
Trop cool.
Sylvain, merci d'être venu.
Merci à vous.
De Toulouse.
Pour l'invitation.
Amis auditeurs, merci de nous suivre de plus en plus nombreux.
Allez. Arrêtez de péter dans le métro.
de Toulouse à Paris, on est clean. Allez acheter ta Lyon en masse.
Ouais.
Et puis on se dit très vite. On sait pas quand.
Si, c'est toutes les deux semaines en fait. C'est toi qui sais pas quand.
Bah ouais, faut qu'on calme. On s'est déjà engagé à faire ça toutes les deux semaines et à pas le faire. Hein.
Ouais.
Merci Camille d'avoir écouté ça. C'était une bonne émission ?
C'est une super émission.
Ouais, c'est vrai ?
Ouais.
Tu vas la réécouter ?
Ouais, juste parce que je vais t'entendre me citer dans ton podcast.
Non, ce sera coupé au montage.
J'en étais sûr que...
Merci d'être venu en tout cas, merci Aurélien, merci Johan au son qui fait
un boulot. Slack. Oui.
Alors j'explique à nos amis auditeurs que Johan aujourd'hui nous parle dans le casque. T'enregistres ce que tu dis ou pas Johan?
Bien sûr.
Ouais, bah tu laisseras alors. Merci.
Surtout ça fait une heure et demie. S'il
ouais,
te plaît.
Ouais, tu veux le mettre en intro, ça va être parfait. Allez, merci tout le monde.
Salut.
Merci.